Pour parler chiffres, si on parle du marché français, il y a à peu près 45 000 ingénieurs diplômés par an. On estime qu'il en faudrait 15 à 20 000 de plus. Et il y a dans la population ingénieur en France, 15% de nos ingénieurs français qui travaillent à l'étranger et 20% des jeunes qui s'exportent. On a tendance dans ces métiers-là à prendre de plus en plus de responsabilités. Ce n'est pas une tendance complètement anodine, c'est-à-dire qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin que les personnes qui prennent ces responsabilités-là soient passées par les phases précédentes.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après des études à Kedge et à Central Sup Paris, il se lance dans le monde professionnel en tant que business manager chez Altran. Puis rejoint Thales en tant que vice-président stratégique et fonde en 2008 Amaris, qui fusionne par la suite avec Mantoue. Il est aujourd'hui CEO du groupe. Comment tu vas Jean-François?
Ça va très très bien, je suis député CEO du groupe. Le CEO c'est le fondateur Olivier Bouran.
C'est quoi la différence?
Oh, il a fondé la boîte au démarrage, puis c'est lui qui a pris le premier le risque, et ensuite il s'est associé avec un ensemble de partenaires.
Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est Amaris? Je crois qu'Amaris, ça existe encore. Qu'est-ce que c'est Mantoue? La différence entre les deux, histoire de savoir un peu de quoi on parle et de savoir pourquoi on va parler avec toi de crise des talents aujourd'hui.
Mantoue, c'est un groupe international qui a démarré il y a 15 ans, qui est resté depuis 15 ans complètement indépendant, détenu par son fondateur et les associés historiques, ainsi que 130 personnes du management, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans tous leurs projets de transformation technologique, mais également culturelle, et également aussi dans la façon d'appréhender cette fameuse crise des talents, avec quatre practices aujourd'hui. Une qui s'appelle leadership, une autre qui s'appelle technologie, c'est dans celle-ci qu'on retrouve l'activité d'Amaris, qui est l'activité historique du groupe Mantoue. Une autre qui s'appelle talent, dans laquelle on trouve une plateforme d'intermédiation entre les freelances et les grands comptes, principalement, qui s'appelle Little Big Connection. Et puis une dernière practice qui s'appelle Digital Marketing and Experience, dans laquelle on trouve des entreprises de marketing digital et un petit studio de réalité virtuelle, assez primé d'ailleurs, dans son secteur, et de développement de jeux.
C'est lequel le studio? C'est quoi le nom du
Novelab.
Studio?
Novelab.
Ok. Du coup, aujourd'hui, on va parler de crise des talents. C'est un truc qui revient tout le temps. Début de semaine, j'étais à la rêve du MEDEF. Et pareil, tout le monde en parlait. Autour de moi, tout le monde en parle. Bon, après, une petite partie de mes activités qui est dans le recrutement, donc ça joue aussi. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la crise des talents et pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est difficile de recruter des profils, en partie des profils tech?
Alors, on en parle beaucoup. Déjà, c'est nouveau d'en parler beaucoup parce que c'est pas forcément très nouveau. Ça fait des années qu'il y a un écart entre l'offre de compétences tech et les besoins de compétences tech. Aujourd'hui, on en parle parce que peut-être ça s'accélère, l'évolution des technos s'accélère. Également, la pénétration de toutes les technologies dans tous les secteurs d'activité fait qu'il y en a besoin partout, alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus réservé. Pour parler chiffres, si on parle du marché français, il y a à peu près 45 000 ingénieurs diplômés par an. On estime qu'il en faudrait 15 à 20 000 de plus. Et il y a dans la population ingénieur en France, j'ai travaillé un peu avant de venir, à peu près 15% de nos ingénieurs français qui travaillent à l'étranger et 20% des jeunes qui s'exportent. Donc il y a de toute manière, en quantité, déjà un gap entre ce qu'il faudrait que le marché puisse avoir comme compétence et puis ce que l'enseignement, les filières d'enseignement produisent.
Et du coup, ça s'est lié à quoi? On reviendra là-dessus un peu après, mais est-ce qu'il y a deux, trois grandes raisons qui font que on n'a pas assez d'étudiants ingénieurs?
Alors, sur les filières de formation, c'est compliqué à dire. En l'occurrence, on peut pas dire que les filières scientifiques, ou en tout cas l'évolution des formations scientifiques dans les dernières années en France, est vraiment progressé. On a plutôt le sentiment qu'on a cherché à diminuer la sélection par les maths, que les filières d'excellence existent toujours. Pour rester dans les chiffres et dans les choses un peu marquantes, on a, je crois, je sais plus quelle année, il y avait 80% des étudiants qui ont intégré l'X qui venaient de 10 écoles, 10 lycées. Donc ça reste, on n'arrive pas à résorber, en fait, un écart entre une élite qui accède à un certain nombre de grandes écoles et puis un plus grand nombre qui pourrait tout à fait aussi complètement s'éclater et s'épanouir dans ce monde-là, monde de la tech, qui est très riche. Hein. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses à y faire, mais qui n'y accède pas parce qu'il n'est pas forcément incité, encouragé. Peut-être que l'enseignement scientifique aussi pourrait être un peu revu. Il est très différent, l'enseignement scientifique en France par rapport à d'autres pays. Il est peut-être un peu plus théorique et moins pratique. pratique que dans d'autres endroits. On voit le succès d'écoles aujourd'hui comme Epitech ou autres qui forment vraiment très bons professionnels dans le domaine, mais qui n'est pas une façon traditionnelle, entre guillemets, en tout cas telle que les anciennes écoles d'ingénieurs l'entendaient, pas une façon traditionnelle d'aborder les métiers de la tech.
Et là, on parle d'ingénieurs. Est-ce que c'est pareil pour les profils un peu plus sortis d'écoles de commerce ?
Il y a une crise des talents en général. Enfin, je pense qu'on en parle aussi beaucoup dans la presse. Depuis la pandémie en particulier, le retour au travail, il se fait à des conditions différentes de la part de l'employé qui a des attentes différentes. La restauration a du mal à recruter. Les métiers de la santé, on en parle énormément, mais c'est également extrêmement tendu parce que ce sont des métiers qui sont difficiles. Ce sont des métiers aussi, peut-être, qui n'ont pas vu l'évolution de leur rémunération à la hauteur et de leurs conditions de travail, à la hauteur des attentes des personnes qui les exécutent. Donc les trois grands domaines en tension aujourd'hui, je crois, c'est la tech, la santé, donc les aides-soignants, infirmiers, etc., et les populations commerciales également.
Et si on fait un petit focus sur la tech, pourquoi c'est aussi important que ça, le recrutement ? Pourquoi on a l'impression que c'est aussi central dans les startups ou entreprises centrées sur la tech ?
La tech, si on définit la tech comme étant principalement les nouvelles technologies, donc ce qui touche à la digitalisation et à l'introduction des technos d'intelligence artificielle, il y a une évolution extrêmement rapide des compétences. Donc, on a sans cesse besoin de recruter. Il y a également une mise un peu en transversalité de tous ces métiers dans tous les domaines. Avant, vous pouviez être concerné par l'informatique si vous étiez une banque, il y a peut-être 30 ans. Aujourd'hui, si vous êtes une industrie, vous avez des robots partout. Et donc, de la même façon que vous soyez Renault ou BNP ou quelqu'un qui vend des produits, et vous aurez besoin d'un site de e-commerce, vous aurez besoin d'outils d'analyse statistique pour la maintenance de vos machines, ou vous aurez besoin d'interfaces pour l'interaction avec vos clients dans le domaine bancaire. Donc tous les secteurs maintenant ont besoin de ces métiers-là, donc la demande augmente énormément. Et c'est difficile de recruter parce que je pense que c'est difficile aussi de gérer une carrière dans la tech.
C'est difficile de gérer une carrière dans la tech.
Parce que quand vous avez moins d'offres, c'est plus facile. Moi, quand j'ai démarré sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc finalement, on avait moins de choix. Quand vous avez à choisir entre deux jobs, c'est beaucoup plus facile qu'entre 30. Et vous avez le risque de vous tromper d'entreprise. Il y a quand même une durée de vie des startups qui a pas beaucoup changé, celle-ci. C'est des très belles boîtes, souvent de très belles aventures, mais il y a du déchet, donc il faut pas vous tromper. La tech évolue très vite, donc vous pouvez aussi vous tromper de produits, de technologies, etc. Donc gérer une carrière dans le métier tech, je trouve ça difficile, parce que c'est compliqué vous êtes obligé, pardon, de sans cesse être à l'écoute de ce qui se passe. Vous pouvez rapidement avoir le sentiment que ce que vous faites est dépassé, et c'est assez anxiogène pour le jeune ingénieur ou technicien qui veut travailler dans ce domaine. On parle souvent du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue du candidat, entre guillemets, ou de l'employé, oui, je trouve qu'il y a une vraie anxiété qui se dégage parfois parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que je me mette à fond sur un GPT-4 dans un an ou deux, j'imagine qu'on parlera de choses encore bien plus perfectionnées que ça. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est compliqué de conseiller quelqu'un aussi sur les choix à faire en termes de trajectoire tech. Enfin, je pense que t'as fait des études d'ingénieur, si je ne me trompe pas.
Moi, j'avais des études de commerce.
Ah, de commerce.
Et j'ai même pas fini les études.
D'accord.
J'ai même pas fini mon école. Mais il est possible que je la finisse à un moment.
D'accord.
Tu parles de carrière. Est-ce que les jeunes, ils veulent encore une carrière. Est-ce que aujourd'hui, les jeunes actifs ont encore une logique de carrière, de carriériste ?
C'est difficile de répondre globalement oui non. Ça dépend vraiment, je pense, des personnes, des secteurs, de l'âge, des endroits. Je crois que globalement, on tend à penser que le rapport au travail change entre guillemets négativement. Le rapport au travail change, on en reparlera probablement, mais le travail reste extrêmement important. Donc on sort beaucoup d'études qui expliquent, ah là là, dans la place, vie pro, vie perso, le perso devient extrêmement important. Ouais, il l'était peut-être plus, c'était peut-être pas normal. Par contre, le pro reste extrêmement important pour tout le monde. Et il est d'autant plus important d'ailleurs, effectivement, qu'on est moins employable. Donc dans la tech, peut-être que on a un peu plus le choix en ce moment, et donc oui, on peut avoir un peu plus d'attentes venant de l'employeur quant au respect de la vie personnelle. Mais J'ai perdu le fil de la question que tu posais.
Est-ce qu'il y a encore des carrières?
Oui, des carrières. Pardon. Ce qui fait une carrière aujourd'hui, ou ce qui, c'est plus seulement la façon de la mener dans une trajectoire monolithique dans la même entreprise, on le voit de plus en plus. Enfin, moi, j'ai 51 ans, j'ai fait 3 entreprises. C'est pas beaucoup. C'est suffisant aussi. Enfin, c'est pas une obligation de changer. C'est plus, et en particulier dans le domaine technologique, un besoin d'accumuler des expériences, d'enchaîner des expériences. Chacune va jouer son rôle pour fabriquer une compétence, un CV, et à mon sens, s'acheter de la liberté, en fait. C'est l'enjeu principal de la gestion d'une, si on peut l'appeler carrière ou trajectoire professionnelle, c'est de se retrouver en situation la plus libre possible. Choisir son employeur, déménager si on a envie, faire du télétravail quand on a envie, si on a envie, ne pas en faire si on a envie d'être dans un bureau avec une équipe, etc. Et cette liberté, elle est le Graal un peu pour tout le monde, elle est extrêmement compliquée à trouver. La tech offre plus de possibilités de le faire que, par exemple, la métier de la santé dont on parlait tout à l'heure. Vous n'allez pas faire du support aux patients en télétravail, c'est compliqué.
Et il y a quelques minutes, tu me disais que, justement, dans la tech, tout évolue très vite. Du coup, j'en déduis qu'aujourd'hui, un étudiant qui sort d'école, ou alors un cadre de 35 ans, s'il continue pas d'apprendre, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, il est déclassé. Il est plus au goût du jour. Du coup, finalement, est-ce que cette crise des talents, elle pourrait pas tout simplement se résoudre avec le fait d'expliquer aux gens qu'ils doivent apprendre tout le temps et qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'est jamais prêt à faire un métier. Ce métier, on l'apprend en permanence. Et puis du coup, cette liberté dont tu parles sur la carrière, on l'obtient justement avec cette capacité d'apprentissage très forte qui nous permet d'être tout le temps au goût du jour, tout le temps à la dernière actualité, dernière technologie.
Alors, ce qu'on va chercher dans les process de recrutement, en particulier dans les entreprises comme la nôtre, c'est effectivement cette capacité à évoluer et à apprendre vite, parce qu'on sait que ça va changer. Encore faut-il qu'on arrive à mettre en place les conditions d'apprentissage qui soient les plus adaptées. Parfois, on y arrive bien, dans certains cas, c'est plus compliqué. Là aussi, on en reparlera peut-être de la formation. Donc oui, l'enjeu, c'est de pouvoir se reformer. L'enjeu, c'est pas uniquement non plus de monter en compétences sur une technologie donnée. Elles vont beaucoup changer. Donc il faut savoir les assimiler assez vite, au niveau de détails qu'on a besoin de déterminer. Mais globalement aussi, dans les métiers dits de la tech, il y a la partie production, réalisation. Il y a aussi beaucoup de recherche, qui sont pas tout à fait les mêmes métiers. Et puis il y a les métiers du projet. Donc, qui consiste à réaliser et finalement les promesses de ce que l'artisan technologique va faire. Il faut quelque part que le maître d'œuvre, lui, réussisse à le mettre au service de son utilisation, de son utilisateur et de son client. On a tendance dans ces métiers-là, avec le temps, avec l'âge, à prendre de plus en plus de responsabilités, de projets, d'encadrement, de gestion budgétaire, de satisfaction client, etc. C'est pas une tendance complètement anodine, c'est-à-dire qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin que les personnes qui prennent ces responsabilités-là soient passées par les phases précédentes de conception, développement, analyse, test, etc. Ce qui pose aussi un challenge à d'autres égards. Quand vous avez l'externalisation en offshore d'un certain nombre de tâches, vous vous privez de la possibilité ultérieure d'avoir, par exemple, d'excellents architectes ou chefs de projet parce qu'ils auront peut-être moins fait, moins connu ces phases amont de dev. Donc, c'est une vraie complexité, c'est une quadrature du cercle. Il faudrait que, effectivement, on continue à gérer des carrières, entre guillemets, avec un rythme qui soit adapté à la montée en compétences. C'est de plus en plus compliqué à faire parce qu'il y a énormément de sollicitations pour les talents du monde de la tech. Quand on dit énormément, c'est on avait fait une petite étude il y a quelques années sur combien d'appels reçoit quelqu'un qui pose un CV sur un job board. Je sais pas combien, à ton avis, en combien de temps?
Je sais pas, en une semaine, il en reçoit. Ça dépend du profil, en fait. Un bon profil.
Jeune diplômé d'une très bonne école.
Type Elix, Polytech.
Enfin, une bonne école. Oui, même, il y en a un paquet de bonnes écoles en France. Oui.
Je sais pas, en une semaine, il reçoit 50 appels.
Il reçoit 50 appels en une demi-journée, et les 30 premiers dans la première heure. Ça a probablement pas changé. On n'a pas recommencé depuis quelques temps cette étude.
T'as fait cette étude quand?
Il y a 6 ans, 7 ans. Ouais. Mais c'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que les entreprises de françaises en particulier sont assez fortes dans l'externalisation de services technologiques, en particulier, enfin sous-traitance, qu'il s'agisse de sous-traitance one shot ou que ce soit sous-traitance en contrat de service à plus longue durée, donc convention de service sur des scopes complètement massifiés d'entretien ou de maintien en condition opérationnelle de leur système d'information. Ça date d'il y a très très longtemps, cette activité là et ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, le marché est beaucoup plus transparent. Les technologies digitales, les réseaux sociaux ont largement transformé la relation avec l'écosystème des ingénieurs qu'on cherche à recruter, dans le bon sens pour eux, pas dans le mauvais sens pour l'entreprise, parce que ça permet de normaliser les bonnes pratiques au final, et ça oblige à éradiquer des mauvaises, peut-être qu'il y avait, mais en tout cas pour eux c'est compliqué parce que ça devient complètement transparent. Là, encore une fois, tout le monde connaît tout le monde, c'est très facile d'avoir des infos sur telle société, tel projet, tel type de techno également, et c'est une transformation qui nous a beaucoup impacté. Toutes les entreprises du monde du consulting, c'est sûr, mais également tous nos clients.
Ok. Et toi, du coup, qui as une vue assez globale justement sur ces clients du fait de cette transparence, est-ce que tu as l'impression qu'ils forment en temps réel leurs équipes ou est-ce qu'ils préfèrent consommer du candidat, embaucher quand ils ont besoin de la compétence, et puis en fait quand on a besoin d'une nouvelle compétence, on l'enlève, on le met au placard, on le licencie et on fait appel à un nouveau candidat?
J'ai pas la réponse. C'est très compliqué de planifier la formation, justement parce que l'évolution des marchés déjà est rapide et l'évolution des technologies elles-mêmes est très rapide. Pour faire un plan de formation qui tienne la route, c'est certainement pas quelque chose qu'on déploie sur 2 mois. On peut certifier, on peut corriger des choses sur 2 mois, mais sinon c'est plus long. Donc c'est risqué pour une entreprise de s'engager très vite, très fort sur une seule tech donnée. C'est vraiment pas simple. Donc le recours à des experts, la sous-traitance, qu'elle soit vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis d'une population de freelance, c'est une vraie solution qui fonctionne, qui est vitale et qui fonctionne pour les entreprises. Elle atteint parfois des proportions qui sont plus très raisonnables pour le maintien des expertises de cette entreprise cliente. Je lisais d'ailleurs Isabelle Borne, il n'y a pas très longtemps, parler de la réinternalisation nécessaire d'un certain nombre de compétences informatique en particulier, dans le domaine de la fonction publique, pour limiter l'externalisation, ça ne veut pas dire la ramener à 2%, hein. Ça veut dire la passer de 40 à 50% dans certains cas, peut-être à 30 ou 40, et avec les fonctions clés détenues par le client qui commande. Quand on dépasse aujourd'hui, chez certains clients, 40% de prestations, on va dire de production, pardon, technologique sous-traitée, on est quand même un peu à la limite de l'exercice. Mais c'est lié aussi au fait que c'est très attractif pour de jeunes ingénieurs de faire leur carrière dans des entreprises comme les nôtres, parce qu'il y a beaucoup de diversité de projets, il y a une mobilité probablement facilitée par rapport à des entreprises plus grosses, le couple marche bien, ça fait des années que ça marche bien, c'est-à-dire sous-traitant, consulting tech et puis client.
Mais en sous-traitant à ce point-ci, est-ce que on risque pas de ne plus avoir de barrière à l'entrée sur son activité? Est-ce que vos clients risquent pas justement de se faire concurrencer assez facilement par un nouvel entrant sur le marché?
Non, parce que je crois pas. En tout cas, à l'inverse, on ne le sent pas. Ouais. Ils risquent de se faire dépasser. Donc okay. Nous, on aide à accélérer les projets et à accélérer l'adoption de nouvelles technologies, à accélérer la réalisation de projets, l'internalisation de certains projets, la réduction de coûts de production parfois. Enfin, non, s'ils le font pas, à l'inverse, ils sont en danger. Donc, ils ont heureusement, malheureusement, en tout cas, ils ont pas le choix.
Ouais. On a déjà un peu donné des briques de réponse, mais elle vient d'où cette crise des talents?
Donc on a parlé de l'aspect principalement quanti, et c'est mondial, hein. La Chine et l'Inde forment et ou prétendent former 1,5 million d'ingénieurs, les Américains 300 000 à peu près, peut-être un peu moins, nous c'est 45 000, et je crois que l'Europe c'est à peu près comme les US. Et globalement, la proportion manquante, tous les ans, est à peu près identique en France au reste du monde. Donc quantitativement, il y a le problème. Ensuite, il y a une difficulté dans la prise en compte des attentes des personnes qu'on veut recruter. Donc c'est dur de recruter. Parce que le rapport au travail a changé. Il y a une manière négative de le voir et il y a une façon très positive de le voir. La façon négative, c'est distanciation vis-à-vis des entreprises en général et individualisme. Ça, c'est des tendances probablement, enfin, sociologiques qui sont communément admises. La façon très positive de le voir, c'est des attentes nouvelles vis-à-vis des entreprises qui dépassent largement le fait de d'avoir un job et d'avoir un salaire. Le travail alimentaire fait plus rêver, en fait. Et c'est tout le paradoxe. C'est qu'on veut plus de perso et un peu moins de pro dans l'équilibre. En revanche, on veut pas du pro sans avoir un sens à ce que ça produit à la fin. Les entreprises peuvent peiner à le comprendre et parfois peiner à le mettre en œuvre, même si elles souhaitent le faire. Donc il y a une forte attente de raison d'être, de ce que l'entreprise produit à la fin, et des personnes qui peut-être de plus en plus font de l'objection de conscience. Il y a des sociétés qui refusent de travailler avec certains secteurs. Enfin, on le voit apparaître de plus en plus. Et ça parle à certains candidats, ça parle moins à d'autres. Bon, donc ça, c'est un vrai sujet. On répond à cela par une meilleure communication, une meilleure transparence des engagements qu'on a sur les sujets principalement sociétaux. Aujourd'hui, il y a deux très grands axes qui ne sont pas limitatifs, mais qui sont la contribution au changement climatique et à l'environnement et la contribution à une meilleure inclusion et diversité. Ça, c'est des attentes assez claires des candidats. Ils veulent savoir quelle est la position de l'entreprise, voire du dirigeant lui-même sur ces questions-là, quelque chose d'important.
Mais par exemple, sur ces questions-ci, quand aujourd'hui on voit des grandes entreprises presque surfer sur ces tendances-ci. Dès que on approche de la Gay Pride, hop, drapeau LGBT, ouais. Plus sur le logo LinkedIn, hop, c'est la guerre en Ukraine, on met le drapeau de l'Ukraine, on fait 2-3 posts pour dire qu'on respecte l'environnement, qu'on est hyper engagé dans les sujets RSE, etc. Est-ce que c'est pas juste de la communication? Est-ce que il faut pas que ça transpire dans l'entreprise? Et souvent, ça le fait pas assez. Donc, les candidats, quand ils... Peut-être que ça les séduit pour rentrer, mais ça les séduit pas pour les fidéliser. Et donc, on a une rétention de candidats qui est assez mauvaise dans ces cas-ci.
Non, t'as complètement raison. On parlera peut-être plus tard de la marque employeur, qui est, entre autres, la correspondance entre l'ambition affichée et puis la réalité derrière. Et il y a toujours un gap entre ce qu'on veut faire, ce que la direction pense qu'elle est capable de faire, et ce qu'elle prétend faire, et ce qu'elle pense sincèrement faire, et puis en pratique, ce qu'elle arrive à réellement faire. Il y a clairement, enfin, je pense que les candidats savent complètement différencier ce qui relève du domaine du bashing ou du washing, pardon, dans aussi bien vis-à-vis de l'environnement que des problématiques d'inclusion. La solution qu'on a trouvée, nous, c'est d'avoir des politiques d'entreprise qui correspondent à des engagements qui nous sont demandés principalement par nos clients, au point de vue de l'environnement, donc SBTI, on a été parmi les premières sociétés à adosser nos taux d'intérêt à des engagements ESG vis-à-vis de nos banques. On a également des politiques très, très pratiques, en fait, de partenariat avec des sociétés qui favorisent le travail handicapé pour aller sur certains marchés publics, par exemple. Et ça, on le fait, et puis les gens dans l'entreprise voient qu'on le fait. Et on le fait parce que c'est pas uniquement philanthropique, c'est une obligation réglementaire de nos clients. Donc ceux qui expliquent que c'est juste philanthropique exagèrent, parce que on a cette obligation-là de toute manière de le faire, et c'est très bien. Et puis ensuite, on a du mal, alors moi je l'avoue en tant que chef d'entreprise, j'ai du mal à imposer à mon entreprise une vision sur ce que devrait être la prise en compte de la diversité et de l'inclusion dans chaque bureau. Donc on préfère favoriser, enfin encourager, laisser germer les initiatives qui tiennent à cœur à une équipe à un endroit, plutôt que décider que c'est la semaine de, par exemple, semaine de la Gay Pride, etc. Ça semble compliqué quand vous êtes dans 60 pays, les sensibilités sont pas les mêmes selon les pays, c'est en revanche important que nos candidats sachent que sur ces sujets, on est alerte, à l'écoute, ouvert, et que on encourage toutes les personnes qui veulent organiser. Ça a eu lieu chez nous à différents endroits, des semaines dédiées à certains thèmes. C'est bienvenu, il y a absolument aucun souci. Mais c'est vrai qu'on l'a pas fait nous encore en tant que politique d'entreprise descendante. C'est pas quelque chose sur lequel on s'est engagé encore globalement de ce point de vue-là. Au contraire, du domaine environnemental et de la réduction des écarts dans les genres, dans nos métiers, qui sont un vrai sujet, parce qu'en fait, on fabrique pas beaucoup de diversité dans le monde de la tech, il y a pas beaucoup de femmes, et donc on a quand même une pénurie de représentation féminine dans les équipes en général.
Avant de retourner vraiment sur les origines de cette crise des talents tech, justement là-dessus, comment tu fais pour favoriser cette diversité? Comment aujourd'hui on peut faire pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech?
À l'échelle d'une entreprise, c'est pas facile, hein. C'est plus un projet. Alors on peut encourager des projets menée par des femmes dans le domaine scientifique avant le choix des études. Donc on pourrait intervenir un peu plus peut-être en tant qu'entreprise dans le domaine de l'éducation, au lycée, au collège. Mais ça, on peut pas faire grand-chose quand même pour le modifier. À l'inverse, il y a des métiers très technologiques, la technologie de la santé, par exemple, il y a plus de femmes. Enfin, j'ai pas revu mes stats, mais ce que je constate en tout cas, c'est que dans le business qui font ces métiers-là, il y a beaucoup plus de représentation féminine. Il y a en général une forte reproduction sociale sur beaucoup de métiers, donc la tech y échappe pas. Si on prend le cas de la France, je crois qu'on en parlait avant de démarrer, il y a énormément de dans les écoles d'ingénieurs de potentiel pour intégrer indépendamment de la classe sociale, parce qu'elles sont pas très chères. La plupart sont des écoles complètement publiques, très très bonnes écoles. Puis pourtant, il n'y a pas plus de 10 ou 15%, pas plus, de personnes dans ces écoles qui viennent des classes populaires, qui représentent quand même plus que 10-15% de la population française. Donc on a un problème structurel de diversité. Ce qu'on peut faire au niveau d'une entreprise, c'est sensibiliser les gens à ça, certes, aménager le processus de recrutement dans un certain nombre de cas. Si on parle de la question des genres, on favorisera plus facilement d'avoir... laisser parler quand on recrute une femme avec une autre femme, c'est des choses parfois qui sont assez faciles à faire, que beaucoup d'entreprises commencent à comprendre et mettre en œuvre. Puis parfois, on peut faire aussi un peu d'affirmative action, c'est-à-dire que la façon de mettre en avant, de pousser dans une carrière un individu va changer en fonction des références culturelles, et le genre, c'est un pointeur assez fort pour ça. Il y a des différences assez notables qui se font entre hommes et femmes. À l'inverse, il y a des pays où c'est pas le cas. Si on prend en Asie, il y a absolument aucun problème lié à l'appréciation du genre dans l'évolution de carrière, donc du point de vue d'une femme qui prendrait plus de responsabilités, c'est pas un souci, en tout cas pas plus qu'un homme, et c'est pas du tout le cas dans d'autres pays, et les pays européens en particulier pour ça sont encore un peu en retard, mais comme le sujet est ouvert, ça progresse assez vite, en tout cas, et l'accueil pour ces actions qu'on entreprend, donc d'avoir un meilleur accompagnement, un meilleur coaching, une meilleure prise en compte des difficultés peut-être, parfois, pour les femmes à prendre des responsabilités, on le traite avec des programmes dédiés et puis un accompagnement dédié.
Et justement, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, il est vrai, parce que ça a été pour nous un vrai sujet de nous avoir des femmes sur ce podcast, c'est très compliqué. Et en fait, c'est un sujet que j'ai vachement travaillé avec, par exemple, Charlie Perrault, qui est responsable startup aux Échos. Et c'est lié tout simplement au fait que c'est entre un et deux hommes qui animent le podcast. Et donc, il n'y a pas ce sentiment de représentation, on se sent pas... sans pas la maison, comme je te disais juste avant. Ouais. Et donc forcément, ça crée un frein. Donc c'est vrai que avoir plus de représentation féminine, y compris durant les entretiens, ça aide à ça.
Après, c'est profondément ancré quand même dans les réflexes, on va dire, sociaux et culturels. Hein. On peut pas tout faire au plan de l'entreprise et au plan de l'éducation. On constate, nous, que les femmes à qui on propose des évolutions de carrière vont avoir un premier réflexe qui va être « Ouh là là, c'est sûr, je vais y arriver ». Les hommes se posent pas la question. Ils sont programmés pour, ils sont attendus là-dessus. Et ouais, bien sûr. Ils sont peut-être pas capables, mais on se pose la question après, quoi. Et donc ça, on essaie de le corriger en donnant plus de temps, en étant peut-être un peu moins assertif sur l'urgence de la prise de poste, en accompagnant peut-être un peu différemment aussi, en mettant en place du mentoring interne, des choses comme ça. Ça marche assez bien. Mais il faut le faire. Donc si on le fait pas, on prend le risque de décrochage à un certain moment, un certain niveau de responsabilité où il peut y avoir encore un conflit perçu entre ce choix professionnel et puis, par exemple, la construction d'une vie de famille ou autre.
Pour revenir sur les origines de cette crise des talents, est-ce que la France est bien lotie sur la formation des ingénieurs, et est-ce que les étudiants qui sortent d'école ont une bonne formation, une formation qui correspond aux attentes du marché? Tout à l'heure, quand tu citais tes chiffres, il me semble que la France était quand même l'Europe et le groupement de pays, je sais pas comment on peut définir ça, l'Union, qui produit le plus d'ingénieurs par an.
Alors, autant qu'aux US, en fait.
Autant qu'aux US. Est-ce que nos étudiants, ils sont bons, aussi bons, meilleurs?
Meilleurs, on va encore taxer les Français d'être un peu prétentieux, mais en tout cas aussi bons, c'est sûr. Je pense qu'on donne beaucoup d'exemples d'ingénieurs qui sont allés s'expatrier, dans les paradis de la tech, la Silicon Valley ou autre en particulier, et qui réussissent extrêmement bien. Un pays comme le Canada accueille volontiers et à bras ouverts, j'ai l'impression en tout cas, beaucoup de nos jeunes ingénieurs. Donc je pense que les formations sont vraiment bonnes, voire très très bonnes. Et en particulier pour un certain nombre d'entre elles, publiques, des écoles comme le groupe d'école INSA par exemple, qui a beaucoup progressé ces dernières années, forment des professionnels assez incroyables. Et pas uniquement d'ailleurs sur le plan technologique. Et c'est pas les seuls, enfin le groupe des écoles centrales, etc. On pourrait en citer beaucoup, j'en oublie. Donc je pense que le niveau de formation est bon. Il a aussi le mérite de nous laisser sur le marché, en tout cas pour la plupart de ces écoles, des gens qui ne sont pas endettés. Alors que si vous faites une formation computer science dans une grande université américaine, vous finissez probablement avec un petit peu de dette à amortir. Les études d'ingénieur public en France, c'est gratuit.
Pourquoi c'est important, selon toi, ça?
Bon, déjà, c'est théoriquement pas un frein à l'intégration. Donc, si on donnait conscience peut-être plus facilement à un certain nombre de personnes qui peuvent accéder à ces études de par leur niveau académique, ils seraient pas empêchés de le faire par manque de moyens. Et puis c'est important également parce que au moment de sortir sur le marché, on n'est pas contraint d'accepter un job qui nous éloignerait de ce qui nous a amené dans ces études initialement, parce qu'il y a quand même cette espèce de paradoxe qu'on soulignait peut-être un peu d'ailleurs en parlant de tes autres activités autour du recrutement de chercheurs. Quand on choisit ces filières-là, c'est a priori c'est pour changer le monde. C'est pas pour facturer plus cher. On peut finir par facturer plus cher, c'est jamais désagréable. Mais quand on est un jeune lycéen, on veut changer le monde. On veut pas spécialement aller faire des devs en salle de marché ou autre. Et nous, on a besoin, nous, de gens qui vont faire des devs en salle de marché ou qui vont faire des développements sur des sites de e-commerce. Mais ça change moins le monde que de faire de l'invention technique, quoi, de faire de l'invention technologique. Donc il y a aussi cette complexité pour nous de devoir réconcilier des attentes profondes de cette population avec en réalité ce que le marché du travail va demander. Mais c'est la même chose avec les gens qui ont fait des études de commerce. Au début, on avait aussi l'idée de changer un peu le monde et puis on s'intéresse à beaucoup de choses, à la géopolitique, etc. Puis une fois qu'on est plongé dans le monde professionnel, on fait des calculs Excel et on calcule des KPI et ainsi de suite. Donc le monde professionnel est fait ainsi. Mais du coup, ça demande un travail d'éducation à l'entreprise pour faciliter l'intégration du jeune professionnel dans son milieu. Oui, il y a un gap entre la passion que peut susciter l'étude du domaine scientifique dans votre école d'ingé, et puis réellement ce qu'on va vous demander de mettre en œuvre dans le fameux domaine de la tech.
Mmh. Ouais. Est-ce que ça c'est pas lié à une naïveté étudiante, au fait de penser que tout est très simple et très flexible et qu'on peut aller faire tout ce qu'on veut comme on veut, alors que on est quand même dans un monde qui a jamais été aussi complexe. Dire ça me fait penser aux Lumières qui ont voulu faire une encyclopédie et rassembler toutes les connaissances du monde. Aujourd'hui, c'est inimaginable. La preuve, on essaye de faire des intelligences artificielles pour faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté étudiante qui explique ça?
Moi, je crois pas. Elle est pas, je crois pas. Enfin, il y a peut-être un manque de curiosité et un manque paradoxal d'ouverture d'esprit sur un certain nombre de choses qui peut pénaliser nos jeunes. Quand on a 18 ans aujourd'hui, on est nourri par des bribes d'informations qui dépassent rarement les fameux 200 et quelques caractères. Donc c'est une façon d'appréhender le monde et de voir les choses qui est complètement nouvelle par rapport à celle qu'on inculquait avant. Elle est pas mauvaise, elle est nouvelle. On n'est pas habitué en fait. Il faut le temps que le cerveau s'habitue. En tout cas, on développe pas beaucoup l'esprit critique. On développe pas beaucoup l'idée que tiens, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas correct. Il faut que je me renseigne, il faut que je vérifie. Et puis donc, on imagine probablement que si on a choisi la filière data, on va trouver un job dans la data. Probablement en ce moment, ça c'est vrai, mais ça peut être dans un autre domaine, pourquoi pas. Et il y a peut-être un peu plus du point de vue du corps enseignant toujours ce fameux gap avec le monde de l'entreprise qui lui est peut-être là pour le coup vraiment dans certains cas, en tout cas c'est pas une, j'en fais pas une généralité, mais dans un certain nombre d'endroits qui peut être un peu naïf, en tout cas d'imaginer que ok, j'ai identifié un besoin pour la gestion de projet, par exemple, tech, je vais faire une filière gestion de projet tech, et donc les gens vont forcément sortir en étant compétents pour faire de la gestion de projet tech. Donc il y a probablement un manque d'intégration entre le monde de l'éducation et puis le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup, si on parle de la France, beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'apprentissage qui sont extrêmement positives. En tout cas, je pense que les entreprises, c'est le cas de la nôtre, les reçoivent très, très positivement. C'était un sujet tabou il y a 2 ans. C'est maintenant quelques dizaines par an. Donc, c'est quelque chose qui a complètement changé et qui va contribuer à faciliter le financement par les étudiants de leurs études et qui va contribuer aussi, nous, à mieux former des professionnels, probablement, qui comprendront notre métier et qui seront opérationnels encore plus vite.
Et vous intervenez dans les écoles? Mantoue influence les programmes de formation des écoles et à des top managers qui vont donner des cours, etc. ou pas forcément?
C'est fait de façon ponctuelle, oui. On a un programme de relations avec les entreprises. Donc, dans certains cas, ça se traduit par des partnerships dans lesquels on anime des conférences, parfois des cours. Et également, on intervient auprès d'un certain nombre d'associations étudiantes pour former ces jeunes qui sont intéressés à développer quelque chose dans leurs associations. C'est souvent des associations qui vendent des études de marché ou des études tech, qui
les
font
GIE,
de la création, par exemple, ou les sociétés qui font de la création d'entreprise, les associations étudiantes spécialisées en création d'entreprise, certaines qui font du développement international ou autre. Et donc, on accompagne les gens qui ont montré l'intérêt pour aller dans ce monde associatif. On essaie de les accompagner à apprendre plus vite les métiers du conseil en général.
Au début de cet épisode, on disait que les compétences évoluent extrêmement vite. Mmh. Est-ce que aujourd'hui, les étudiants, quand ils sortent d'école, ils ont la capacité à absorber cette évolution systémique des technologies?
Là aussi, c'est difficile de faire une généralité, mais enfin, moi, je crois que pour la plupart de ceux qui sortent des écoles d'ingénieurs, ils le font depuis qu'ils ont 10 ans, ils sont passionnés. Enfin, d'ailleurs, même en dehors des écoles d'ingé, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. L'école est un support pour eux et parfois le diplôme un mal nécessaire. Des écoles comme l'école 42, par exemple, dont on parle beaucoup. Moi, j'en entends beaucoup parler sans savoir dans le détail ce que c'est. Une des choses que je sais, c'est que ça délivre pas de diplôme. Ça semble pas être une mauvaise expérience pour les personnes qui récupèrent les gens qui sont passés par ce biais-là, par ce canal, quoi. Donc, je pense que la plupart de nos jeunes sont complètement armés pour, et bien mieux que la plupart des gens de mon âge, pour aller affronter tous les changements qui arrivent. Ils ont l'habitude de voir des innovations fréquentes. Ils ont déjà, pour certains, quand vous regardez sur plusieurs générations, alors Facebook, c'est un truc de vieux, déjà. Je pense qu'Insta, pour certains, ça l'est peut-être. Snap, probablement. TikTok, ça va bientôt le devenir, et ainsi de suite. Donc, ça évolue très vite. Ils ont l'habitude de devoir faire des choix et puis de devenir très bon dans un domaine et puis de devoir shifter sur un autre. C'est vrai dans le domaine technologique aussi. De ce point de vue-là, ils n'auront pas de problème. On a plutôt une difficulté dans l'intégration et dans la rétention avec parfois la culture du zapping.
Le diplôme, il est important?
En France, il est important, oui. Globalement, l'éducation, c'est important. Donc, l'éducation sans diplôme, ça marche aussi. Mais le diplôme, c'est quand même quelque chose qui permet normalement, en nombre, en qualité et en quantité, d'aller délivrer un label. Vous pouvez pas uniquement remettre la responsabilité de la qualification et du niveau de qualification des gens que vous recevez à une entreprise. On va pas refaire entre guillemets le travail. Ou alors il faudrait évaluer tous les gens qui rentrent avant qu'ils rentrent. Ce qu'on va commencer à faire de plus en plus dans certains domaines. Mais ça me semble être tout de même significatif. C'est une démarche également d'investissement pour celui qui le fait, etc. Par contre, il faut bien avoir en tête que c'est aussi un facteur d'exclusion. Donc, ça ne suffit pas. Mais ça suffit pas pour une entreprise de ne prendre que ce critère-là.
T'aurais pu arriver là où t'es arrivé si t'avais pas de diplôme?
En France, non.
En France, non?
Non.
Si t'as monté ta boîte et que tu l'as fusionnée avec celle d'Olivier?
J'ai rejoint Olivier qui avait monté le groupe en Suisse et moi j'ai monté la France. Non, j'aurais pas eu. En fait, ça a été utile pour avoir les premiers jobs. Donc, si j'avais eu les premiers jobs sans diplôme, oui. Mais je crois pas que je les aurais eu.
Okay. Et ça, c'est problématique ou pas?
Diplôme, pardon, et réseau, hein. C'est pas uniquement le niveau de compétence. C'est le réseau que ça vous donne, qui facilite l'accès au marché caché du travail.
Et c'est problématique? On devrait arriver à sortir de ça? Ou pas?
Oui, parce que c'est une ambition pour nous aussi, parce que la valeur des diplômes fluctue et évolue elle va pas forcément croissante et elle est pas toujours facile à qualifier. Il y a beaucoup d'écoles qui sont devenues maintenant des business remarquables, mais business remarquable égale génération de chiffre d'affaires, égale mise du logo à tour de bras sur tout un tas de certificats, diplômes, etc. Donc ça demande quand même une compétence de pouvoir identifier ce qui a réellement été fait par l'individu qui montre le badge. Et ça suffit plus dans certains cas. Et par ailleurs, il y a une désaffection d'un certain nombre de filières aussi, une désaffection pour les classes prépa. Il y a beaucoup de choses qui se passent également dans le monde de l'éducation, en particulier en France, qui nous obligent, nous, à considérer des solutions alternatives pour le recrutement. Alors, si je peux donner quelques exemples, il y a l'idée de s'armer de tech pour être capable de faire des évaluations de compétences uniquement, j'allais dire, sans CV, en tout cas, sans les informations d'identité et d'études sur le CV, et donc des processus d'évaluation cognitif, psychotechnique, technique, des candidats sur lesquels on travaille pour pouvoir sortir du traditionnel filtre prépa, bac plus 5, etc. Enfin voilà, qu'on utilise beaucoup dans le conseil. On utilise également de plus en plus maintenant des circuits de formation interne pour pouvoir créer des professionnels, enfin former des professionnels dans des métiers qui nous semblent accessibles avec des parcours qui sont 3, 6, 12 mois dans le domaine par exemple du recrutement, dans le domaine de certains métiers de la comptabilité ou du support client. On fait ça en particulier à l'île Maurice aujourd'hui, ça on le fait pas principalement en France. Et puis on envisage d'ouvrir, on sait pas encore sous quelle forme, une école d'entrepreneurs pour aller chercher des personnes qui n'ont pas forcément accès au monde économique les aider à intégrer soit un projet d'entreprise qui serait leur et les incuber de ce point de vue-là, soit les faire rejoindre ensuite une de nos activités pour nourrir une diversité dans nos équipes. Parce qu'effectivement, quand vous avez dans une équipe que des gens qui pensent pareil, c'est assez confortable quand vous êtes manager, hein. Vous n'êtes pas contredit par des gens qui ont été formés comme vous, hein, en général, pas beaucoup, mais c'est dangereux. Et puis ça limite le nombre d'idées qui peuvent sortir des réunions et des esprits ici et là.
Comment on fait du recrutement sans CV ? Pour ça, vous utilisez des outils particuliers ? Vous avez développé vous-même en interne un algo avec des tests ? Je sais pas.
Non, ça, on sait pas. Pour l'instant, on est plutôt en train de regarder les solutions du marché qui font ça. Il y a plusieurs méthodes. Il y a des process qui sont plutôt basés sur les qualités de communication des candidats et donc la partie, le fait de regarder comment ils réagissent en situation professionnelle sans aller tester beaucoup de skills un peu plus hard, enfin de compétences un peu plus dures. Et puis il y a des systèmes un peu plus élaborés qui permettent sur la base des patterns qu'on détecte en interne de faire des rapprochements en faisant passer un certain nombre de tests à nos candidats pour voir indépendamment des compétences là vraiment techniques, hein, on est plutôt sur des compétences intrapersonnelles, interpersonnelles, ceux qui se dégagent le mieux en adéquation avec ceux qui fonctionnent bien dans l'entreprise. Donc c'est intéressant, c'est une approche assez intéressante parce que finalement, même si on veut faire du recrutement avec plus de diversité, une entreprise, ça reste une activité économique, c'est pas que philanthropique, et donc il faut qu'on s'assure que les personnes qui nous rejoignent ont les qualités nécessaires pour réussir dans les jobs qu'on va leur confier. Premièrement, il faudra qu'on les capte. Le deuxième sujet, ce sera de les intégrer, de les former. Aujourd'hui, on s'est très bien formé. Nous, on a une entreprise qui a fait sa croissance principalement organique. 96% de notre activité aujourd'hui, c'est une activité qu'on a fait croître nous-mêmes. Donc ça veut dire recruter des gens et les former pour le faire. Ça, on sait bien le faire quand les gens ont fait la même chose que nous. On sait pas bien faire aujourd'hui prendre quelqu'un d'un milieu extérieur, ça peut être un ancien sportif, un ancien militaire, quelqu'un qui a pas fait d'études ou quoi que ce soit. Ça on sait pas le faire parce que le circuit d'intégration sera forcément différent. Les gens qu'on intègre aujourd'hui dans le process de formation, on parlait du diplôme, la majeure partie d'entre eux cesse servir d'Excel. Pas toujours au niveau premium ou expert, mais savent ce que c'est qu'Excel. La majeure partie d'entre eux, quand ils reçoivent une invitation à Outlook, comprend que c'est une invitation pour un rendez-vous, etc. Mais les personnes qui n'ont pas été baignées dans le monde professionnel ou le monde étudiant connecté en permanence sur un ordi, un PC ou un Mac, n'ont pas ces réflexes. Donc nous, on n'est pas aujourd'hui, on va l'être bientôt, mais pour l'instant, on n'est pas équipé à fermer ce gap qui reste le principal obstacle parce qu'une fois en situation professionnelle, le reste on sait l'apprendre.
Ok. Et Comment aujourd'hui ça se matérialise? Est-ce que déjà vous le faites un peu et vous avez, je sais pas, t'as des 2-3 stats à nous donner, je sais pas, on recrute X% de nos consultants via sans CV ou qui sont pas forcément.
Ah, aujourd'hui, je pense pouvoir vous dire qu'on doit recruter pas loin de 0% sans CV. Dans les métiers de la tech, c'est très compliqué. On fait par exemple des activités dans le domaine pharma. Moi, je suis plutôt content que les gens qui valident les produits qui sortent des chaînes de pharma chez nos clients aient fait des études de pharma. Et moi, je serais pas capable de le faire. Et donc, je pense qu'il y a des métiers pour lesquels ce sera quand même très compliqué d'échapper à des études longues, pour plein de bonnes raisons. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de pays, les parcours qui sont le plus adaptés à développer les meilleurs comportements professionnels sont pas forcément ceux qui ont été les plus diplômés. Donc on revoit nos critères pays par pays, métier par métier. Je pense qu'en général, si on peut parler de retour d'expérience dans le domaine du recrutement puis de la gestion des talents, ce qui est très compliqué, c'est justement de trouver une règle simple. Il faut sans cesse être agile, challenger ce qu'on a mis en place, avoir des intuitions, mais les vérifier par les chiffres, et puis surtout aller à la rencontre des jeunes, enfin des candidats, des enseignants s'il le faut, des écoles, etc. Et sans cesse re-challenger ce qui semblait fonctionner à un moment et qui semble ne plus fonctionner à un autre. Ça a beaucoup évolué sur les 15 dernières années. Le rapport, par exemple, à l'envie de manager des équipes, tu parlais tout à l'heure de ça, ça n'a pas beaucoup le vent en poupe, en fait. Beaucoup de jeunes qui déclarent qu'ils n'ont pas envie d'être manager.
Et est-ce que c'est pas justement la compétence numéro une, cette remise en question permanente, le fait de challenger en permanence ce qu'on pense vrai, oui. Aujourd'hui, c'est le truc le plus important.
Bien sûr, je pense. Et ça demande un effort.
Et du coup, tu me disais que justement dans la tech, c'est là où le CV est le plus important. Est-ce que ça reste vrai, sachant que aujourd'hui l'information est accessible librement sur Internet, que ce qui compte dans la tech, c'est savoir réfléchir compte tenu d'un écosystème. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA et de LLM. Ce qui compte, c'est de savoir gérer de la data et savoir faire des lignes de code qui sont cohérentes avec les attentes du marché. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va apprendre à l'école, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre en autodidacte. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, chez Mantoo, on valorise? Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, on valorise et on tend à de plus en plus valoriser ou pas forcément?
Je pense que c'est plus lié à la façon dont chaque spécialiste va gérer sa carrière que à la façon dont les entreprises l'abordent aujourd'hui. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Il y a de la place pour ceux qui veulent se développer en tant que professionnels, par exemple freelance, et donc choisir leur projet, expérimenter. En général, un des intérêts de cette formule, c'est de pouvoir avoir un job mainstream et puis d'expérimenter un peu à côté. Et finalement, on a de compte à rendre à personne quand on fait ça. Je dis pas que c'est mieux que d'être dans une entreprise, loin de là. C'est un choix. Il y a des gens qui ça correspond très bien, puis d'autres beaucoup moins bien, beaucoup moins. Mais dans une entreprise, c'est quand même assez compliqué d'avoir 100% des personnes qui peuvent, comme certains l'annoncent, hein, je crois que Google laisse un certain pourcentage de temps pour développer des projets personnels. C'est quand même assez compliqué pour les entreprises dans le métier du conseil de généraliser l'approche. Ponctuellement, on peut avoir effectivement des participations à des projets ici et là, mais globalement, ça reste quelque chose malheureusement de compliqué.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Tout à l'heure, tu me disais que la pandémie avait eu un impact important sur la vision du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle plus forcément énormément. On a l'impression que c'est assez loin. Mais justement, quel impact ça a eu sur le recrutement tech? Surtout qu'on a l'impression que la grosse crise du recrutement a émergé à ce moment-ci. Ou en tout cas, on a commencé à vraiment parler à ce moment-ci.
T'as raison. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé qui s'est passé aussi dans le même temps, c'est que on commence à sortir d'une bulle financière qui a rajouté, on l'a pas mentionné, mais dans les aspects quantitatifs, il y a celui-ci, la pression sur les salaires est tout de même extrêmement complexe à gérer pour les gens qui ont besoin d'expertise technologique. Il y a une très très forte pression sur les salaires. Ça se traduit parfois par les augmentations ou des offres reçues par les intéressés de 30, 40, 50% de plus de salaire. Donc même si tu es attaché à ton entreprise, à ce compte-là, c'est quand même difficile. Quand tu es jeune, tu te lances dans la vie, etc. C'est difficile de refuser de tels gaps. ça posait d'énormes problèmes. Il y a des entreprises qui peuvent pas s'aligner. Et la plupart d'ailleurs des entreprises peuvent pas tout simplement s'aligner avec une concurrence qui plus est qui est devenue mondiale, puisque depuis la pandémie, donc en même temps que cette bulle n'avait pas encore complètement éclaté, puisque toutes les activités digitales, tech, pendant la pandémie ont complètement eu le vent en poupe, c'est ajouté la concurrence internationale un peu plus forte. C'est-à-dire, si je suis un ingénieur français aujourd'hui, j'ai un certain nombre de jobs que je peux faire de façon remote complètement. Et donc, l'accès au marché du travail, basé depuis l'endroit où j'ai envie de vivre, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large qu'avant. Donc, ça a changé principalement le rapport au travail. On le disait dans ce qu'on a eu envie d'avoir un peu plus de place au perso, parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même chouette. C'est pas bien d'être confiné, mais avoir plus de temps pour soi et en famille, ça a aussi des vertus. Mais également, ça a changé les attentes en termes de localisation du travail. Liberté, de l'envie de le faire de là où on veut. Donc le télétravail étant probablement la première demande qui a émergé, qui existait déjà de façon un peu larvée, ça existait déjà parce que les outils technologiques le permettaient dans la plupart des cas. Mais ça a ouvert à des métiers qui n'ont pas eu le choix le télétravail. La banque, par exemple, n'avait pas le réglementairement la possibilité ou l'envie de généraliser le télétravail avant, et ensuite elle n'a pas eu le choix. Donc elle a trouvé des solutions, elle a fait évoluer les architectures techniques, elle a fait évoluer ce qu'il fallait pour pouvoir continuer à opérer à distance, sachant qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui continuent à aller travailler sur place. Mais ça a levé des verrous, en fait. Les sociétés n'ont pas eu le choix dans la crise que de commencer à accepter des pratiques qui n'étaient pas acceptées. À tel point qu'on a des clients parfois qui ont presque plus les mètres carrés chez eux disponibles dont ils auraient besoin pour aller tous les jours au travail, parce que certains préfèrent travailler dans un bureau. Mais c'est vraiment la demande en télétravail que ça a changé principalement.
Chez Mantou, c'est quoi la politique du télétravail et c'est quoi les meilleures best practices que t'as vu émerger sur le télétravail?
Alors, la politique, je peux parler de la politique française, parce que après, selon les pays, c'est aussi lié à parfois des contraintes réglementaires. En France, c'est 3 jours de télétravail, maximum.
Semaine,
oui, pardon. Ouais. Ça, les best practices de télétravail, c'est, que ce que le télétravail permet, ça doit être de la flexibilité. Je pense qu'on est d'accord. Donc, gagner du temps de transport, mieux gérer un certain nombre de contraintes personnelles en travaillant depuis chez soi et donc s'occuper, dans certains cas, peut-être un peu mieux de ses proches, etc. Il y a des périodes de la vie où c'est super. Il y a des périodes de la vie où c'est moins super. Quand on est, je sais pas où est-ce que tu étais installé en début de carrière, mais moi, télétravail en début de carrière, j'aurais pas tellement aimé, quoi. J'étais pas équipé chez moi, j'avais pas prévu d'avoir un bureau. Et il y a des périodes dans la vie professionnelle où ne pas être mentoré quotidiennement par quelqu'un qui est disponible pour t'aider peut être pénalisant. Ou à mon sens, c'est préférable de ne pas être en télétravail. Donc la best practice, c'est probablement de sensibiliser les gens à être pragmatiques. Là encore, il n'y a pas de règle. Si je dis à tout le monde, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, je vais avoir des pratiques parfois qui seront extrêmement bénéfiques, parce que finalement, ce sentiment de liberté, c'est quand même un facteur de productivité dans son organisation personnelle qui peut être bénéfique à l'entreprise. En revanche, ça va aussi créer des vrais problèmes, parce que je vais laisser des situations avec des personnes toutes seules chez elles, en difficulté professionnelle au mieux, dans certains cas psychologiques, que je vais pas repérer. Donc c'est pas la réponse à tout. Ça crée aussi un autre gap, qui est un gap, puisque le sujet du podcast, c'est aussi les questions sociétales, un gap dans le mélange des catégories socioprofessionnelles au bureau. C'est déjà très particulier la façon dont le monde du travail fonctionne. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprise il y a 30-40 ans, les entreprises avaient recruté leurs propres techniciens de surface jusqu'à leur patron. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font le facility management, il y a des entreprises qui font la tech, il y a des entreprises qui font le marketing, autre chose, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de mélange, en fait. Ça crée quand même à terme un souci, probablement, de redéfinition de ce que c'est qu'une entreprise, justement. Et donc, ça facilite, paradoxalement, ça facilitera pas forcément pour les entreprises le fait d'accorder un certain nombre d'avantages dans ce domaine. Ça va être un sacré challenge dans la fabrication, la consolidation de la culture d'entreprise. En tout cas, des gens de ma génération, fabriquer une culture d'entreprise en télétravail, c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas les gens de mon âge qui s'en occupent chez nous. On a des équipes qui le font très bien, mais ça demande un effort. Et ce qui est compliqué, je rajoute une chose, ce qui est compliqué pour ce qui est compliqué dans l'éducation au monde de l'entreprise qu'on a besoin de faire dans ce contexte, c'est d'acculturer les gens avec qui on travaille, en particulier les jeunes arrivants, au concept de choix. Une entreprise peut faire plein de trucs. Tout faire, c'est compliqué. Et donc, ce que notre DRH Étienne Cadre appelle la réconciliation des contraires, c'est quelque chose de très dur. On veut des bureaux sympas, mais on veut pas venir au bureau. On veut un job sympa, mais on veut pouvoir en changer comme on veut, etc. Et en fait, on a raison tout ça. Mais il faut quand même un ordre de priorité. C'est-à-dire que je peux très bien décider que j'améliore les conditions de télétravail. C'est compliqué d'améliorer en même temps, économiquement, ne serait-ce qu'économiquement, en même temps, et les conditions de télétravail, et la qualité de vie au bureau. Donc c'est le gros challenge des boîtes. Les grosses boîtes s'en sortent bien. Les sociétés en particulier ultra financées par des fonds ou la bourse s'en sortent extrêmement bien. Et c'est dangereux d'ailleurs, parce que parfois elles accordent un certain nombre de trucs sans trop penser aux conséquences managériales et ça crée un déséquilibre entre des sociétés qui travaillent dans la durée versus certaines qui travaillent un peu plus sur un sprint. Mais donc c'est un vrai challenge pour les plus petites sociétés, surtout je pense que c'est plus pénalisant pour les plus petits que de devoir s'adapter à ça, parce que là une boîte de 40-50 personnes, elle est mieux perçue souvent qu'une boîte beaucoup plus grosse, en tout cas dans les critères sur lesquels elle est mieux perçue, c'est que c'est une équipe super soudée, super sympa. Donc si l'équipe est plus au même endroit, c'est plus difficile à faire.
Mais justement, le fait de devoir faire des choix comme ça, ouais, ça crée une ADN, ça crée une vraie personnalité à l'entreprise. L'entreprise, elle se définit par ses choix-ci. Ouais. Justement, elle s'interdit de télétravail. Ou alors, tu vois, par exemple, j'ai un ami, Théo Lyon, qui a fondé Koudak, qui est une agence de communication, qui fait que du télétravail.
Ouais.
Et du coup, c'est leur ADN très profonde. Et ça crée justement cette personnalité-ci de devoir faire ses choix. Et ça peut être justement un vecteur pour lutter contre la crise des talents, parce que les talents, ils viennent chez toi pour cette personnalité-ci.
Ouais, tout à fait, donc je suis d'accord. Et les choix, il faut les affirmer. Nous, on a affirmé le choix que c'est 100% télétravail. Chez nous, c'est complètement proscrit. C'est pas interdit, c'est proscrit en termes de culture managériale. Je sais même pas si on a les moyens de contrôler. Mais en termes de culture managériale, c'est pas quelque chose qu'on recommande, enfin, c'est pas quelque chose qu'on ferait, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et puis j'imagine que ton ami, il a beaucoup de compétences et de moyens de générer de l'adhésion à son entreprise, qui passe par autre chose.
On crée des process différents, quoi.
On crée des process différents.
Après, ADN d'entreprise qui
si les gens sont aux quatre coins de la France et se sont jamais vus, je trouve qu'on perd quelque chose.
Non, les gens se voient au moins une fois par mois, je crois.
Je suis tout à fait d'accord. On a été contraints pendant la pandémie de suspendre les formations présentielles qu'on faisait pour un certain nombre de nos managers. Et ça a été, le bilan est pas bon. Ça délite complètement les relations professionnelles entre les gens d'un bureau à l'autre, ça diminue les synergies entre les activités, ça fait perdre du sens même au métier, ça nous permet pas nous de les connaître en passant une semaine avec eux, etc. Donc c'est facile de faire du distant quand on se connaît bien en fait.
Et pour ça, est-ce que faut coupler le travail avec des moments off, type off office, via du sport, des activités de loisirs liées à la passion des individus, sans prendre en compte leur pôle dans l'entreprise, leur place dans une business unit, etc. Par exemple, est-ce que c'est pas important d'aller faire travailler la personne qui fait du marketing, celui qui fait du sales, celui qui est consultant et le RH dans une activité de loisir où ils sont pas définis par justement leur activité? Est-ce que ça vous le faites? Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà travaillé ou pas tant que ça?
Si, enfin, ça se fait de façon assez naturelle ça se fait d'autant plus facilement que on a des bureaux dans lesquels on fait un certain nombre d'événements. Dans ces événements, on présente un peu les résultats de l'entreprise, on fait 2-3 activités. Il y a dans les bureaux des clubs, ici, de sport, à d'autres endroits, d'autres activités. Oui, ça se fait. La question étant, c'est une question ouverte, pour le coup, jusqu'où l'entreprise doit aller là-dedans? Il y a aussi en France des comités d'entreprise qui font un super travail, qui proposent plein de trucs. Donc jusqu'où l'entreprise doit aller pour s'obliger à créer ces activités-là dans le cadre de l'entreprise. Enfin, c'est ça qui est un peu paradoxal, si tu veux. Finalement, je préfère qu'on travaille sur des projets ensemble pendant un jour, qu'on rigole effectivement autant que l'activité professionnelle le permet quand même pas mal. Et puis qu'au moment où on est sur la partie perso, donc le cadre personnel du travail, la personne vit sa vie, c'est pas l'entreprise qui lui dicte ce qui peut être cool de faire ou autre. Donc c'est des points de vue divergent là-dessus, peuvent diverger là-dessus. À mon avis, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment, dans une entreprise comme la nôtre, 10 000 personnes, 60 pays, ça dépend beaucoup des pays, ça dépend de beaucoup de choses. Et par ailleurs, le télétravail, puisqu'on parlait de cette question-là, de l'entreprise de ton ami qui a choisi ça, mais c'est un avis très personnel, c'est pas l'avis de mon entreprise. Moi, je pense que la maison, c'est pas fait pour travailler à distance. Donc, je pense qu'à terme, ça pose d'énormes problèmes, y compris de désaffection des futurs jeunes professionnels, de ce qu'ils auront vu dans la journée de leurs parents. Puisqu'aujourd'hui, on dit que le rapport à l'entreprise s'est transformé, parce qu'on a vu que nos parents qui avaient fait confiance aux entreprises n'avaient pas toujours été récompensés de la confiance accordée et des sacrifices accordés à l'entreprise. Quand vous entendez aujourd'hui votre père toute la journée, ou mère toute la journée, être sur des réunions professionnelles, je vous assure que vous allez avoir certains enfants probablement qui vont dire « Oh, c'est génial !» et d'autres qui vont dire « Ça n'a pas l'air génial. J'ai pas envie de passer ma vie à la maison, derrière mon PC, à passer des coups de fil de 8h du matin à 8h du soir, en ayant à peine le temps de manger. » Parce qu'en pratique, il y a quand même beaucoup de ça.
Il y a beaucoup de ça. Tout à l'heure tu parlais des salaires. Moi c'est une discussion que j'ai eue avec Alexandre Viroz il y a pas très longtemps, donc CEO d'Adeco. Oui. Et il me disait que lui il a des consultants, des salariés qui lui font des fois des demandes lors du processus du recrutement qui sont bien au-delà des moyens qu'a le groupe pour avoir tel travailleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi?
Oui, tout le temps.
Et d'où est-ce que ça vient?
Ça vient de la pénurie déjà. C'est-à-dire, comme les entreprises ont besoin, certaines y vont d'autant plus facilement qu'elles sont financées par des fonds qui sont dans une approche relativement agressive. On sort d'une période où l'argent était rapportait pas beaucoup placé en banque, donc c'était probablement très intéressant et attractif d'aller faire du capital risque ou financer des jeunes pousses. Donc ça a tout de même déséquilibré le marché, et donc on trouve des salaires déraisonnables. Moi ça m'est arrivé en début de carrière dans une autre bulle qui était la bulle internet, où j'avais fait un gap de salaire qui a aucun rapport avec ma compétence, mais il m'avait bien servi quand même à l'époque. Et du coup, c'est une réalité. C'est une réalité aussi augmentée par la facilité maintenant à adopter des modes de job différents comme le freelancing, qui permet de faire un gap en termes de rémunération nette, qui ne convient pas forcément à tout le monde, en revanche, mais sur lequel il y a un high en ce moment.
Il y a un coût personnel, freelancing.
On est bien d'accord, coût personnel. Mais qui permet quand même globalement d'améliorer la REM à la fin. Alors effectivement, on peut aussi ne pas avoir de vacances quand on est freelance. Enfin, il y a plein de contraintes qui viennent avec. On peut aussi en avoir, bref. Mais oui, c'est un vrai sujet qui est en train de se normaliser. Alors le salaire, c'est quand même ce sur quoi tu te rabats quand tu considères que t'as plus rien à espérer sur le reste. Donc soit tout le monde est parfait au même niveau. Et tu vas chercher un salaire le plus élevé possible sur l'offre la plus parfaite que tout le monde a. Soit toutes les offres finalement se valent, qu'elles soient parfaites ou pas. Et c'est à peu près le même jeu, c'est-à-dire que finalement, ce qui compte, c'est ce que tu es sûr d'avoir maintenant pendant un an, deux ans, trois ans. Et ce que tu auras beaucoup plus tard, de toute manière, tu as la quasi-certitude d'avoir dû évoluer. Donc c'est assez logique que le salaire devienne un point. C'est de plus en plus transparent par ailleurs. Il y a beaucoup d'études qui paraissent. Bon, en général, quand on est interrogé, on arrondit largement au supérieur. Donc en plus, les études, elles sont souvent biaisées parce qu'elles sont un peu plus élevées. Enfin, d'un côté, il y a beaucoup d'inflation, la vie est très chère. Puis d'un côté, les entreprises se plaignent que les salaires sont élevés. Mais enfin, personne s'y retrouve à la fin. Donc il y a bien quelqu'un qui exagère au milieu de tout ça. Mais oui, on a ce sujet. À l'inverse, en tant qu'individu qui a une compétence qui est demandée, probablement en raison d'essayer d'en tirer le meilleur parti, lequel, encore une fois, sous réserve, qu'il estime que tout le reste se vaut. Ou alors que finalement il y a que ça éventuellement qui peut justifier de changer pour aller chez telle entreprise. Il y a qu'éventuellement un gap de salaire qui pourrait justifier ça.
Et aujourd'hui, comment tu fais pour t'expliquer au candidat que non, ça sera pas telle rémunération, mais par contre ils auront tel avantage, tel avantage, tel avantage, ou tu leur dis alors, non et puis
Non, non, on explique pas. On dit, en tout cas, on explique la règle de rémunération dans l'entreprise sous la forme du package que ça représente. Donc, le package, il comprend les conditions de travail, il comprend le télétravail, l'indemnité de télétravail, tes lunch vouchers, ta mutuelle. Enfin, c'est pas juste un salaire, on est d'accord. Mais tout le monde propose, tout ce dont je viens parler à côté, la plupart des personnes le proposent. Donc non, tu ne peux te battre que sur des choses qui ne sont pas de l'argent si tu ne veux pas ne donner que plus d'argent. De la formation, de la mobilité. Par exemple, une des raisons de quand on cherche à changer et qu'on change pour plus cher, on va souvent dire à son employeur « oui, j'ai été payé plus cher ». Mais en fait, c'est rarement la seule raison. C'est-à-dire que si vous êtes sur un boulot qui vous passionne, un employeur qui, en général, veut vous garder assez longtemps, on discute, on sait qu'on a une progression dans les années à venir, on sait, je pense, assez bien où on est, et donc on n'est pas dans l'urgence de faire un gap déraisonnable qui va nous faire prendre un risque si on est rassuré dans la durée. Donc ce qu'il faut être capable de faire, c'est donner le plus de visibilité possible sur la stratégie de l'entreprise, sur le purpose qu'elle suit, et puis se doter d'outils peut-être pour faciliter le dialogue en amont de la frustration et des problèmes rencontrés. Donc, bon, déjà, ça se pilote sous forme de politique salariale au niveau d'une entreprise, parce que plus que le niveau de salaire, ce qui est encore pire, c'est l'injustice au niveau du salaire. Et c'est aussi le sentiment que la performance soit pas convenablement rémunérée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien piloter, qui est pas très facile à piloter, à vrai dire. On essaie de le faire au mieux. On y arrive souvent et parfois probablement pas. En revanche, on essaie de démultiplier les initiatives pour que l'expérience chez nous, chez Mantou, c'est un de nos mantras, soit absolument unique. Et que on passe le temps qu'on veut dans l'entreprise, 30 ans, 30 mois, 6 mois, mais cette expérience, elle doit vraiment être spéciale. On doit avoir appris beaucoup, on doit avoir rencontré des gens, on peut d'ailleurs revenir. C'est quelque chose qui est... C'est un écosystème d'entreprise qui se veut moderne et qui, pour nous, correspond à ce que le marché futur et du travail et du conseil va devoir incarner. Ça se traduit par des projets qui sont, par exemple, celui de notre internal marketplace. Il y a eu plusieurs versions pilotes qui, bientôt, va sortir en version un peu plus aboutie, qui consiste à se dire... On a beaucoup de gens qui partent pour des projets, beaucoup trop en tout cas. On a des taux de turnover qui dépassent 20% maintenant dans les entreprises comme les nôtres, alors qu'on a plein de jobs à staffer. C'est quand même bizarre. Donc la pratique dans la plupart de nos sociétés est contradictoire, puisqu'on recrute beaucoup de monde, mais on n'arrive pas parfois à faire changer, nous, en interne, les personnes qui conviendraient parfaitement à un job qu'on a d'ouvert. Donc faciliter la mobilité interne, faire bouger les gens avant qu'ils se posent la question. C'est un certain nombre de techniques qu'on essaie de démultiplier, qui ne sont vraiment pas faciles, parce que ça demande un effort énorme au manager de gérer cette mobilité. Mais donc, il y a des solutions pour engager le discours avec tous nos talents sur d'autres critères uniquement que simplement l'augmentation de salaire.
Et comment tu mets en place ça? T'as un suivi personnel, du coup, de chaque candidat dans leur point, je sais pas, semestriel sur bah voilà tes objectifs, t'en es là, etc. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi une partie vie perso où tu leur poses des questions sur leur ambition, où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils se sentent au travail, comment ça se passe avec leur manager, si le point il est avec la RH, comment ouais. ça se passe avec tes collègues, tes machins. Tu creuses tout ça?
Alors nous, on a une structure dans laquelle le rôle du manager et du coach est assez prépondérant, et quand il est pas bien rempli... Coach et manager, enfin, on demande aux managers d'être aussi des coachs. C'est pas pour ça que tu peux pas avoir un mentor à côté qui soit aussi un coach. Mais on demande aux managers de s'occuper aussi de l'évolution de carrière et de la prise de compétences des gens avec qui ils travaillent. Donc, de s'occuper avec bienveillance de là où ils en sont. Et on a un système parallèle de notation de la satisfaction de l'employé quant à son projet, à l'entreprise en général, qui est un système clos, c'est-à-dire que son manager n'y a pas accès. Donc si quelqu'un a quelque chose à signaler, un drapeau à lever, il le fait dans ce système-là, qui est un système de petite étude satisfaction au moment de remplir ta feuille de temps du mois, hein, et qui nous permet d'intervenir, en faisant intervenir des équipes de ressources humaines, de façon transverse, qui essaie de creuser quel est le problème. Malheureusement, ça permet pas de tout résoudre, mais en tout cas, ça donne la chance, l'opportunité de délocaliser une éventuelle zone de frustration, un questionnement qui aurait pas trouvé sa réponse locale, parce que bah, parfois le manager n'a pas le temps, il n'a pas compris que c'était urgent, et ça, c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Ça donne d'assez bons résultats. Ça nous permet de désamorcer un certain nombre de situations d'insatisfaction qui sont c'est normal enfin dans le boulot de se poser des questions et ce qui est naturel c'est d'y obtenir des réponses. Donc quand elles ne viennent pas assez vite, ben là on a ce bypass qui fonctionne bien.
Tout à l'heure on parlait de la marque employeur.
Oui.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place pour que Mantoue ait la meilleure marque employeur possible? Quels sont les best practices que tu as remarquées là-dessus? Et quelles sont justement les choses à ne surtout pas faire?
Bon, la marque employeur, ça consiste pour nous à faire à atteindre deux objectifs, attraction et rétention des talents dont on a besoin. La partie attraction, elle se fait à travers principalement le process de recrutement et le marketing candidat. Et la rétention, elle se joue principalement dans la qualité de vie de l'entreprise, au sein de l'entreprise, et puis la concordance entre ce qui a été annoncé avant et ce qui sera vécu après. Donc si on a dit à quelqu'un que oui, tu es consultant dans le domaine de la tech et quand tu veux changer de projet, c'est possible. Quand il a envie de changer de projet, il faut qu'il y ait un process qui soit en place. C'est un des sujets assez classiques dans notre métier. Et donc, il faut que ce soit bien géré. Et pour le faire, on s'assure que ce qu'on a mis en place, c'est une direction qui est une direction relativement transverse. Aujourd'hui, elle est localisée dans le recrutement, mais elle est relativement transverse. Entre les guidelines d'une politique marketing et communication, il faut quand même que l'approche soit assez jolie, en fait, de ce qu'on fait en termes de marque employeur. Le recrutement, c'est une fonction longtemps qui a été jugée comme une fonction subalterne, back-office, facile. Je passe des sabilos sur un CV, je convoque des candidats pour quelqu'un, et puis je cours après le compte-rendu, quoi, c'est à peu près ça. Puis finalement, j'ai plein de candidats, j'essaierai de prendre le meilleur, je réponds si j'ai le temps aux candidats que je ne retiens pas, etc. Donc c'est la mise en place dans le processus d'attraction de tout un tas de bonnes pratiques. Je réponds gens, je fais intervenir le management, et il y a 1000 personnes chez nous à peu près, hein, sur 10 000 qui contribuent au process de recrutement. C'est effectivement les managers, un certain nombre de nos consultants, les directeurs. Moi-même, je vois régulièrement des candidats toutes les semaines. Et le meilleur moyen, c'est de continuer à y aller pour comprendre exactement ces tendances-là et puis la façon dont la boîte est perçue. Et donc, de convenablement répondre, c'est tout bête, hein, mais d'arriver à l'heure à l'entretien, de donner une réponse correcte aux personnes qui sont partenues, et puis de faire en sorte que le process dure pas non plus des plombes, etc. Donc ça, c'est la partie attraction, description également du job, et puis description de assez rythmée, industrialisée, assez carrée des différentes conditions. Donc ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé par les entreprises, la plupart des entreprises, même si quand quelqu'un patiente dans nos bureaux, très souvent, il sera sensible et il nous dira souvent « Ah bah tiens, c'est quand même super sympa parce que la personne que j'ai eu au téléphone était vraiment très agréable » ou alors « Tiens, tout le monde m'a dit bonjour en rentrant ». Donc c'est l'atmosphère que la personne va ressentir dans l'entreprise et dans l'attraction, tu parlais de salaire, mais quand je demande à un candidat quels vont être vos critères, le feeling… le feeling avec l'entreprise, avec le management, c'est celui qui arrive en 1 systématiquement. Alors peut-être qu'ils imaginent que le salaire viendra, mais je crois pas. Parce qu'il y en a qui répondent le salaire. Mais majoritairement, c'est le feeling. Et après, c'est le poste, l'expérience. Puis après, c'est le salaire. Parce qu'on pense que le salaire, si les deux premiers vont bien, sur un salaire, on tombera d'accord. Et après, il y a la rétention. Donc là, la rétention, c'est plus compliqué en ce moment. Et donc, je crois que il faut pas faire comme si les gens n'allaient pas avoir envie de partir et n'allaient pas recevoir 30 sollicitations par jour. Donc, il faut leur permettre, quand ils ont envie de changer, de l'exprimer. Donc, il y a des outils pour le faire chez nous, sur un portail, hein, où tu te connectes pour aller voir les différents projets dispo, cette fameuse internal marketplace. Et puis, le job du manager, c'est aussi de t'aider à t'orienter. On peut aussi observer un certain nombre de choses sur les plateformes de formation. On a à peu près 25 000 heures de formation par an chez nous sur une plateforme qui s'appelle Rise Up, où on a à la fois du contenu standard de formation qui vient de l'externe, et puis du contenu produit en interne par un certain nombre d'experts. Et c'est cette plateforme-là qu'on utilise, l'accès est gratuit. Donc on observe aussi, le cas échéant, qui a eu envie de s'informer sur quoi. Et puis les personnes peuvent aussi demander, quand ils le souhaitent, telle ou telle formation supplémentaire. Bon, après, ça se passe là aussi dans le cadre d'un plan de formation d'entreprise. Et dans la rétention, ce qu'il faut réussir à gérer le mieux, c'est idéalement le changement de job avant que la personne se pose la question de changer. Ça, c'est vraiment le cas pour moi idéal. Si je peux, la best practice que je peux recommander, c'est ça, pour la rétention. Et sinon, quand il y a la volonté de partir, prendre le temps sur une séquence assez rapide de bien creuser pourquoi et de s'assurer que c'est pour une bonne raison. Et dans un certain nombre de cas, on arrive à trouver la solution parce que ça peut être parce que on n'est pas content de son salaire, ça peut être le cas. Puis des fois c'est vrai, des fois c'est à raison. Ça peut être parce que on n'est pas content de son manager, ça peut être parce qu'on n'est pas content de son projet, ça peut être parce qu'on veut déménager. Voilà. Et donc le principal c'est de permettre le dialogue. C'est-à-dire que finalement nous on a encore une fois 60 pays en France, on a je sais pas combien de bureaux. Quelqu'un qui veut déménager de la région parisienne dans le sud-ouest, ça doit être possible chez nous.
Hein. Ouais.
Donc notre job c'est de s'assurer que son manager, que ça n'arrangerait pas à ce moment-là d'engager la discussion, l'engage quand même.
Et du coup, comment tu fais de une pour anticiper l'envie de bouger et comment tu fais une fois qu'ils ont exprimé leur envie de bouger, justement pour que le manager passe quand même du temps pour accompagner le salarié, sachant que c'est pas forcément dans son intérêt direct parce qu'il va devoir recruter quelqu'un d'autre, ouais. Il va devoir y consacrer du temps, ça va potentiellement être une charge de travail supplémentaire parce qu'il va y avoir une personne
ouais,
de moins.
Tout à fait, ouais.
Comment tu fais pour l'incentiver là-dedans?
Ça fait partie de son job et puis des critères d'appréciation du manager. C'est-à-dire quelqu'un qui perd systématiquement tout le monde parce que il écoute pas. De toute manière, pourra pas prendre beaucoup de plaisir dans ce métier-là. Il aura sans cesse, comme tu le disais, il faudra qu'il reprenne les activités que les personnes qui sont parties ont laissées. Enfin, donc c'est on va dire par par le bon sens, ça se gère. Ce qui est, en fait, il suffit d'expliquer surtout en amont. Donc, je pense que le plus important, c'est d'expliquer les règles du jeu en amont au moment de l'arrivée et tout tient beaucoup à la réunion de démarrage qu'on fait avec les personnes qui nous rejoignent, où on explique un certain nombre de règles du jeu. Parmi ces règles du jeu, c'est les demandes de mobilité, elles sont adressées au management, entre guillemets, et à personne d'autre, avec la garantie qu'elles seront traitées. Si elles ne le sont pas, il y a quasi obligation de la personne pour qui ce serait pas traité d'escalader en N+1. Ce qu'on fait pas, c'est en parler tout autour de soi, c'est en parler aux clients sur qui on sur les projets lesquels on intervient à l'instant T, etc., pour déstabiliser l'organisation. Pour le reste, tout est possible. Et je pense que quelqu'un qui tu explique si tu as envie de changer, c'est possible, mais pas en 48 heures, le comprend très bien. On a des clients en bout de ligne sur les projets qu'on délivre. Parfois, on peut bouger. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois. Enfin, quand on dialogue, en général, c'est assez facile. Il nous arrive même de recruter des gens en France avec la garantie que dans un certain temps, ils passeront, ils basculeront au Canada ou dans un autre pays. Et on fait intervenir dans le process de recrutement de ces personnes le pays d'accueil futur pour valider que la compétence et le profil correspond au plan de recrutement connu à l'instant T de la future entité d'accueil. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses possibles avec du dialogue.
Et si justement dans ce dialogue, tu découvres qu'un salarié, il te dit « moi j'adorerais aller chez Hotspot », et toi tu as Hotspot comme client,
ouais.
Est-ce que tu peux discuter avec ton contact chez Hotspot, le responsable grand compte, et lui dire j'ai un gars, il adorerait rejoindre ta team en interne, est-ce que éventuellement ça pourrait t'intéresser, machin? Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi?
Tiens, pour que j'aide mon client à débaucher mes consultants?
Ouais.
J'ai pas besoin de les aider, mais alors non, je les aide pas.
Okay.
Donc je les aide pas particulièrement. Okay. C'est pas du tout inenvisageable de s'entraider.
Parce que ça pourrait justement solidifier la relation avec le client.
Non, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. En général, le client fait lui-même le move, et donc on est nous face à une situation où on est souvent protégé par notre contrat. Et en général, dans le cadre d'une relation long terme, si ça reste à dose homéopathique et justifié par un intérêt stratégique pour le client, naturellement, on va pas mettre le client en difficulté. Ce qui se passe très souvent, c'est que nos équipes font un travail remarquable chez nos clients. Et donc, elles prennent des jobs extrêmement importants, une compétence extrêmement importante. Et donc, ce serait suicidaire pour le client, parfois, de prendre le risque de les laisser insatisfaites et donc devoir partir. Alors c'est tout le paradoxe, parce que nous, notre fond de commerce, c'est que les gens fassent plein de projets différents et s'amusent, s'éclatent à démultiplier les expériences. Il y a une partie des personnes pour lesquelles, si la certitude c'est de vouloir rester dans tel domaine métier, chez tel acteur, ça fait pas beaucoup de sens. Si tu veux bosser chez un avionneur en France, t'as une propale d'Airbus ou d'Dassault, il peut pas t'en arriver une troisième qui soit probablement plus favorable. Enfin, j'exagère. Peut-être des sociétés clientes qui seront pas contentes que je dise ça, mais globalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça se fait tout seul. On avait imaginé une année avec Olivier Bourand faire un marché du travail inter-entreprise avec un certain nombre de sociétés dont on pensait qu'il y avait un ADN suffisamment compatible pour que ce soit intéressant de faire évoluer certains de nos professionnels ailleurs avant qu'ils reviennent. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresserait d'expérimenter. Donc on n'est pas allergique au fait que quelqu'un quitte l'entreprise et revienne. Le moins possible de personnes quittant l'entreprise, bien sûr. Mais dans certains cas, c'est vrai qu'on a pu se dire, telle personne qui surperforme chez nous, malheureusement, à l'instant T, à tel endroit, on n'a pas le job qu'il faudrait lui donner. Et l'idéal serait été de pouvoir pousser un projet chez un client pendant 1 an, 2 ans, puis de récupérer. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe.
Ouais. C'est compliqué à mettre en place.
Non. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, ce que je peux dire aussi, c'est que on parle beaucoup du point de vue de l'entreprise. Et on parlait un tout petit peu aussi au début du point de vue du candidat. Le candidat, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, a quand même de bonnes raisons d'être un peu perdu. Donc, il a besoin d'être guidé, d'être aidé. Et donc, là, le retour d'expérience que je peux faire pour nos jeunes talents, c'est d'être très curieux, de poser des questions, de rencontrer du monde et de surtout ne pas interpréter la position de l'entreprise. Il faut discuter. Si on n'est pas content, on le dit gentiment, dans les deux sens. L'entreprise, elle a une position qu'elle doit être capable d'expliquer. La personne qui a un objectif, elle doit essayer d'être capable de le formuler, etc. Ça, parfois, ça fait défaut. Donc, notre job de manager, c'est surtout de s'assurer que le dialogue a lieu. Ensuite, on n'a pas la réponse à tout, on fait pas tout bien. Mais en tout cas, il faut parler tranquillement des sujets de fâcherie. Et ça aide énormément à prolonger la durée de la collaboration et dans un esprit souvent très, très bénéfique pour tout le monde.
Et ça, justement, ça fait partie des valeurs de l'entreprise,
ouais.
La culture d'entreprise, justement, la communication.
Oui, ça fait partie des principes de l'entreprise. Là encore, chaque entreprise affirme un certain nombre de valeurs et c'est pas rempli dans tous les endroits de la même façon à 100%, probablement, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que n'importe qui sait qu'il peut me contacter moi, le CEO de la boîte, quelqu'un qui bosserait dans mes équipes en réunion de démarrage, j'explique toujours que si t'as un problème avec moi, t'appelles qui tu veux dans la boîte, y compris mes associés, si t'es pas content de moi. Je préfère avoir la chance d'en prendre une, entre guillemets, et puis de corriger quelque chose que j'aurais mal fait, plutôt que de me retrouver avec quelqu'un qui s'en va sans que j'ai eu l'occasion de dire pardon si je me suis trompé, et puis de faire une proposition alternative.
Et ça, tu constates que ça fonctionne ou pas?
Oui.
Ok. Les gens vont vraiment dans la communication.
Etc. Non, alors, quand ça se produit, ça fonctionne.
Ok.
Le fait de le rendre possible, c'était très facile au début de la vie de l'entreprise. C'est un peu plus compliqué maintenant.
Parce que c'est pas forcément naturel chez les gens.
Non, c'est vrai.
On peut penser aux étudiants qui ont fait des grandes écoles. Souvent, dans une grande école, on te dit parle pas trop, râle pas trop, et tais-toi, exécute, et tu verras plus tard. Puis en fait, plus tard, on te dit c'est comme à l'école ici. Applique bien, parle pas trop.
Ouais.
Et du coup, la communication, c'est pas forcément la chose la plus naturelle. Moi, je vois avec les gens avec qui je travaille, j'ai mis du temps à instaurer des points de communication. Et pour ça, moi, je leur demande tout le temps, ok, qu'est-ce que t'as ressenti? Au fond de tes tripes, vraiment, comment t'as vécu le truc? Et en fait, peu à peu, ils sont tellement à l'habitude de s'ivrer et d'écouter ce qu'ils ressentent que là, la communication s'instaure. Mais quand on a 10 000 salariés, je pense que c'est une autre histoire.
Oui, c'est vrai. Alors après, la communication, il faut pas avoir peur du désaccord. Donc c'est jamais, c'est vrai qu'au premier abord, quand vous êtes l'employé, qui plus est un peu plus jeune, dans les sociétés de conseil, il y a une surreprésentation des jeunes employés, c'est un peu plus dur peut-être. Mais c'est aussi le tour de main du manager de faire en sorte que l'échange se produise. Donc on y arrive quand même assez fréquemment.
Est-ce qu'il y a d'autres best practices que vous mettez en place pour justement avoir une bonne rétention des talents?
On a parlé de formation, on a parlé de politique télétravail, on a parlé de ce qui s'appelle Express Yourself chez nous, c'est la possibilité d'aller flaguer à la HR un problème qu'on veut signaler. On a parlé de la marketplace interne. On a une politique RSE, une politique D&I relativement open. Là, je pense que une des meilleures practices aussi, c'est la croissance de l'entreprise. Hein, pour être clair, c'est on a beaucoup de clients, beaucoup de projets, on est multimétier, multipays. Dans le domaine tech, on a 4 grandes business lines qui sont digital engineering, life science et télécom. Les projets sont donc sont nombreux. On peut assez facilement changer de lieu chez nous. Bon, il y a quand même parfois, quand on change de pays, il y a des problématiques juridiques qui sont et de visa qui sont à prendre en compte, mais on peut assez facilement bouger chez nous. Donc ça reste quand même une des meilleures pratiques, c'est-à-dire plus vous avez de choix, plus vous êtes susceptible de gérer le questionnement et cette crise, entre guillemets, de talent par des propositions alternatives. Si vous n'avez qu'un seul job à offrir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc pour les grosses sociétés comme nous, c'est pas plus facile que pour les autres. En revanche, on a quand même beaucoup d'armes et d'atouts pour bien travailler.
Quand l'IA s'est déployée de façon massive il y a quelques mois, est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? Je peux penser à IBM qui a viré une grosse partie de ses fonctions support en disant on va avoir des fonctions IA, des petits chatbots, etc., qui vont résoudre tous ces problèmes. Et donc, on va faire des économies énormes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as constaté? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Est-ce que là-dessus, tu as un point de vue?
Alors nous, on a lancé l'utilisation généralisée de GPT-4 pour le staff pendant l'été. En mode test pour détecter toutes les bonnes pratiques qui peuvent être issues de l'utilisation de GPT-4 avec des guidelines naturellement pour sauvegarder de la confidentialité des pratiques. Donc aujourd'hui, on a des centaines de personnes qui s'en servent et avec un groupe de travail qui remonte hebdomadairement des stats et les meilleures idées partagées auprès de tous les autres. On s'en sert donc beaucoup, on espère qu'on va s'en servir encore plus. Il y a dans le domaine du recrutement. Alors, dans l'IA, on peut mettre beaucoup de choses. Hein. J'écoutais le podcast que vous avez fait avec Monsieur Julia. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a de la vraie grosse intelligence artificielle et puis il y a de l'algorithmie aussi parfois. Dans le recrutement, ce qui est attendu, c'est probablement une aide à la sélection de candidats qui dépasse le cadre du CV et qui permettent de faire de la gestion de data sur un certain nombre de tests et puis donc de donner une lecture différente d'une candidature par rapport à les aptitudes attendues sur tel ou tel job. Donc ça, il y a des attentes là-dessus. Aujourd'hui, je ne connais pas de système qui soit complètement mature, mais par contre, quelque chose qui commence à fonctionner peut-être, on est en train d'en expérimenter. Il y a l'automatisation naturelle du matching entre un CV pour le coup et puis un job. Donc ça, c'est Scorecard. Ça, c'est un truc qui est très très répandu maintenant, qu'on utilise en interne. Donc on a une petite application qui fait ça. C'est plus de l'algorithmique que de l'IA normale, on va dire traditionnelle, que de l'IA. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on va devoir pousser dans ce domaine. Ça suffit pas, mais c'est quand même assez intéressant. Et puis il y a l'usage de l'IA au quotidien pour travailler plus vite et être plus intelligent. Quand je dois comprendre plus vite un métier client, pour préparer une réunion de prospection ou engager le discours avec un expert dont je connais pas parfaitement le métier, c'est une aide extrêmement précieuse. Donc il peut y avoir des imprécisions, mais en tout cas ça me fait gagner un temps fou dans la préparation de mes rendez-vous. On peut rédiger de façon beaucoup plus rapide aussi, je parle du métier du recruteur par exemple, on peut utiliser un GPT-4 pour optimiser des booléens de recherche quand on cherche un candidat sur un job board. On estime que ça nous fait gagner, nous à peu près sur le recrutement, l'utilisation de l'IA, ça va nous faire gagner en première approche à peu près 20 à 30% du temps. On a 200 recruteurs. Un recruteur recrute tous les ans quelques dizaines de personnes. Donc 30% de temps gagné, c'est plus de temps passé avec les gens, moins de problèmes dans le process, éventuellement de choses qu'on fait moins bien. Donc plus de temps sur la qualité. Donc en support client, si on parle du recrutement comme une activité entre guillemets quasi cliente, en support client, on peut gagner quand même beaucoup de choses avec ça. Oui, donc on compte beaucoup dessus et on l'utilise déjà beaucoup.
Et si ces 30% de performance individuelle gagnée, ça veut dire 30 ou plus de pourcentage de croissance, ça veut dire à peu près 30% de licenciements cumulés?
Alors licenciement certainement pas, donc dans notre métier il y a beaucoup de croissance, on a fait en moyenne depuis le début de l'entreprise, on a 40% à peu près de croissance annuelle, ça veut dire plus de temps passé sur les cas difficiles, ça veut dire plus de qualité par ailleurs, dans le process, ça veut dire une montée en compétences plus rapide, ça veut dire moins de démissions parce que des jobs plus intéressants. Si ton job, ça consiste à faire 2/3 de ton temps de la mise en page sur un Word d'un job, un job offer, et d'aller poster sur X réseau ou X job board, et que demain, ce qui te prenait du lundi au mercredi te prend 2 heures le lundi matin, tu démissionneras plus tard. Tu feras beaucoup plus de choses intéressantes, tu passeras plus de temps à appeler l'externe, tu auras plus d'interactions paradoxalement externes en ayant un peu moins de charges en interne. Donc non, ce qui est à craindre, c'est que du coup, on perçoive pas l'effort que ça demande que de utiliser cette techno-là, parce qu'en fait, ça peut nous rendre vraiment meilleurs. C'est, Julia parlait du concept d'outils complètement d'accord avec ça. Ça permet d'aller plus vite, ça fait mieux des choses que nous. Et c'est pour ça qu'on va les utiliser. En parallèle, si on ne sait rien faire du tout et qu'on ne sait pas quoi faire de l'outil, on va probablement en pâtir. Donc ça risque, là aussi, et c'est un des sujets sociaux peut-être à aborder dans des prochains podcasts, mais ça va accélérer les inégalités, ça va accélérer les écarts entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Pas uniquement, il y a ceux que ça intéresse et ceux que ça intéresse pas, mais il y a ceux qui n'y arriveront pas. Et quand on n'a pas de compétences à démultiplier, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que finalement, ça va avantager ceux qui maîtrisent le mieux leur job.
Et chez tes clients, tu constates un changement là-dessus? Il y a une demande de plus en plus importante ou pas forcément, sans forcément citer de clients qui ont pris ça à bras le corps et d'autres ou qui sont un petit peu snob vis-à-vis de l'innovation. Mais est-ce que tu constates un vrai bouleversement sur le marché ou pas forcément?
Dans le domaine du développement tech, complètement. Sur du DevOps, du Dev, et oui, c'est une révolution complète. On va accélérer les temps de mise en prod, les temps de dev, la qualité du dev, le test, etc. Ça pose quand même un problème de confidentialité. Donc c'est limité aujourd'hui par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à ma connaissance on-premise qui permettent d'éviter les fuites, en tout cas trop de fuites. Donc ça, ce sera réglé tôt ou tard. Et quand ce sera réglé, ça changera complètement le paradigme. Mais comme quand, parle pour les plus anciens, mais les ateliers de génie logiciel type Visual Studio sont arrivés. Avant, ça n'existait pas. Après, c'est arrivé. Depuis que ça existe, on va plus vite. Là, ce sera peut-être dans un facteur encore différent. Donc, il y a un vrai changement de ce point de vue-là. Sur le plan de l'usage, sur d'autres domaines, comme la préparation de contenu, la génération de contenu, c'est un peu plus frileux. Il y a pas mal de domaines réglementés aujourd'hui qui l'interdisent. On a une banque qui n'est pas un client, mais qui est aussi un de nos fournisseurs, qui eux ont pris le parti pour l'instant en tout cas de pas autoriser l'utilisation de GPT-4 pour leurs emplois parce qu'ils ont une info confidentielle et on ne sait pas où va l'info et donc ils ont raison de le faire.
Et vous en interne, ça a été un sujet ça justement, et vous êtes même peut-être dit on va créer notre propre IA parce qu'en interne on a des équipes qui sont capables de le faire, ou ça pas forcément, vous n'êtes pas allé à ce point-ci?
Nous, on a des algos à nous, mais après, pour les algos les plus élaborés, on envisage quand même plutôt de les acquérir. Et on a pris d'ailleurs une participation dans le projet Mistral, qui témoigne à la fois de la position qu'on veut prendre là-dessus, puis de notre intérêt très très fort pour une IA souveraine. Le sujet de la confidentialité, oui, c'en est un. Donc, dans la charte d'utilisation de GPT-4 dans nos équipes, il y a un certain nombre de consignes assez strictes. Après, notre capacité à les contrôler, elle est la même que les autres. Hein. Donc, et de même que quand une banque interdit tout le monde d'utiliser GPT-4, je crois que s'il n'y arrive pas, en vrai, c'est pas possible. Et de toute manière, c'est pas très longtemps souhaitable, parce que c'est une vraie invention positive en général, en fonction de ce qu'on en fait bien sûr, mais dans le travail quotidien, ça tombe assez bien parce que ça peut régler une partie des problèmes de pénurie. Ça peut aider à ramener une partie de la charge de travail aussi, j'allais dire localement. On a fait quand même beaucoup d'offshore dans les métiers de la tech. Hein. Si on parle de souveraineté industrielle sur la tech française en particulier, si on peut garder un peu plus de job local, c'est pas mal. Et puis comme il y a une aspiration à avoir un job plus intéressant, un meilleur équilibre pro-perso, plus on a d'outils performants, plus on a de chances de parvenir à être efficace.
Et donc avoir du temps, du coup, à consacrer à les personnes. Ouais.
Le momentum est pas mal. Mais on est encore loin de ce que ce sera dans 3-4 ans. Enfin, moi, j'ai assez hâte de voir, parce que je pense que ça peut être absolument, absolument génial.
Pour avoir une vision un peu des règles que vous avez fixées, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, un de vos salariés a le droit de faire un rapport de réunion avec ChatGPT?
S'il cite pas de nom de client, s'il ne cite pas de nom de candidat extérieur, entre guillemets, oui, si c'est que de l'info interne, mais va contrôler, quoi. En s'agissant des rapports de réunion, le plus efficace, c'est quand même les enregistreurs. On en teste quelques-uns là, qui font vraiment mot à mot la transcription, et puis qui produisent des minutes de meeting. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup généraliser avec nos clients, okay. Mais ça nécessiterait qu'on ne mentionne pas un certain nombre de choses dessus.
Parce que ça, en termes de confidentialité, c'est compliqué quand même.
Oui, ça peut.
Demain,
tu
fais une réunion de fusion-acquisition.
Ah, mais ça, on fait qu'en interne. Aujourd'hui, c'est qu'en interne.
Ça devient compliqué.
Ouais. Non, on le fait pas. Mais il y a beaucoup de gens que je contacte, par exemple, en externe, et qui ont la première personne qui se connecte au call, c'est leur robot de scripting. Hein. Ouais. Donc, en général, je désactive quand c'est l'externe. La plupart d'ailleurs le proposent. Oui, mon robot qui est venu, est-ce que vous voulez le garder activé ou pas? Mais entre avoir un compte rendu Dans un certain nombre de cas, l'information est assez périssable. Donc entre avoir un compte-rendu qui nous permet de bien travailler et puis pas l'avoir ou l'avoir 3 semaines plus tard, on va vite faire le calcul dans beaucoup de domaines. Il restera des domaines dans lesquels on ne prendra pas ce risque et on ne pourra pas prendre ce risque. Parce qu'il y a de l'information confidentielle, parce qu'il y a également une complexité technique aussi qui est liée à ça. Mais ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. On peut imaginer demain que pendant l'entretien de recrutement, j'enregistre ce qui se passe, avec l'accord naturellement du candidat, et puis qu'on partage ensemble le compte-rendu, et puis la synthèse. Enfin, tout le monde sera peut-être content de le faire. Moi, j'ai souvent du mal à retrouver d'un entretien à un autre exactement ce qui s'est dit. Bien sûr que ça a été noté, mais les gens de mon âge le notaient en s'appliquant pour écrire sur une feuille, et on se relisait. Aujourd'hui, on tape. C'est pas facile de taper en parlant en même temps. Enfin, voilà, la qualité des notes est pas forcément facile à garantir. Ce serait une innovation et ce sera une innovation magique.
Vous pouvez utiliser AirCall pour ça.
AirCall, on l'utilise pour une partie de nos activités. Ouais, tout à fait.
Parce que puis du coup, on va l'étendre. Chose dont j'ai discuté avec Jonathan, du coup, qui a monté AirCall, ouais. Qui eux, ils enregistrent tous leurs entretiens. Mmh. Et comme ça, après, quand le manager veut prépare l'entretien qui a où il y a déjà eu le pré-screening avec le RH, voit ce qui s'est dit, ouais. Et c'est déjà que, tel candidat a telle sensibilité, ouais. Il aime pas ça, il aime ça, machin, je vais pouvoir rebondir là-dessus, ça peut être une bonne accroche, ouais. Pour lancer la discussion et que l'énergie soit le plus intéressant possible, etc.
Tout à fait, mais okay. Ça, on le fait aujourd'hui à la main. Okay. On le fait à la main, et puis il y a un truc qu'on aura peut-être du mal à remplacer... Là, c'est plus culturel. Moi, j'aime bien passer un coup de fil à la personne qui a vu le candidat avant de le voir après. C'est plus... ça reste, pour moi, plus efficace, plus rapide. Mais
est-ce que ça risque pas de biaiser un petit peu l'échange?
Oui, mais dans les notes écrites, il y a aussi des biais, et puis des fois, les trucs, on lit mal. Donc, non, je pense que le scripting automatique, c'est extrêmement attractif, il faut le faire. Mais faut pas forcément se dispenser d'avoir un échange au téléphone. On s'aperçoit que dans beaucoup de cas, c'est un truc qu'on essaie d'encourager dans l'entreprise. Passer un coup de fil fait gagner un temps inimaginable sur un chat Teams ou un email.
Totalement.
Ça peut aller totalement. Très très vite parfois.
Pour arriver un petit peu sur la fin de cet épisode, qu'est-ce que tu penses, toi, des nouvelles plateformes là, de recrutement en ligne qui se développent? Je pensais à Talentseed qui renverse la relation entreprise-salarié où c'est le salarié qui met son CV, c'est l'entreprise qui va vers lui, ou à Welcome to the Jungle qui centre tout sur la culture d'entreprise.
Bon, le salarié, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir autant de canaux que ça pour pouvoir engager la conversation. Ça, je trouve que c'est absolument indispensable d'avoir tout ça. Est-ce que c'est vraiment des ruptures complètes? Je suis pas certain. Parce que, finalement, LinkedIn, c'est quelqu'un qui met son profil et puis qui se fait appeler par les recruteurs. Donc c'est pas, il y a pas besoin que ce soit une rupture pour que ce soit une bonne idée. Il y a aussi des solutions une qu'on avait suivie en Espagne qui s'appelle Talent Hacker. Où tu vois un poste sur le marché, tu connais quelqu'un qui pourrait éventuellement convenir et tu fais de la cooptation quasiment forcée en envoyant le CV au futur recruteur d'une personne que éventuellement tu connais et t'es rémunéré pour ça. On peut imaginer aussi que de plus en plus la fonction de recrutement se passe de façon freelance, mais aussi beaucoup de plus en plus qu'elle shift vers de la cooptation. Ça, c'est le graal pour tout le monde, mais c'est le meilleur moyen de faire. Et donc toutes les plateformes qui facilitent ça, la mise en transparence de tout ce qui va bien dans une entreprise, et puis tout ce qui va moins bien, il y a aussi les mêmes plateformes qui le font, c'est plutôt bénéfique globalement, parce que la majorité des boîtes cherchent à bien travailler, et ça permet de mettre aussi en valeur ce qu'on a à proposer.
Est-ce qu'en interne, vous avez justement cette valeur du « tout le monde est sales » ou alors de « le réseau prime avant tout le reste » et du coup, chaque salarié est ambassadeur de l'entreprise et il passe un tellement bon moment qu'il vend l'entreprise en permanence et du coup, le recrutement vient du réseau, vient de « j'ai tel pote qui aimerait travailler ».
Ça dépend des fonctions, les deux.
Ok.
Ouais. Tout à fait. On n'arrêtera pas de faire, encore une fois, on a 200 personnes en recrutement sur 3 time zones, ce qui est quand même un point fort pour nous. On fait à peu près probablement 2500 recrutements par an. On voit 40 000 personnes en entretien, ou 50 000 peut-être maintenant cette année. Enfin, ça se remplace pas, parce que c'est ça. L'enjeu, c'est quand même de créer un contact, créer une relation. Donc la cooptation facilite la création de la relation, mais il n'y a pas que ça qui le permet.
Ok. Et est-ce que vous avez l'IA qui arrive, dont on parlait tout à l'heure, bouleverse cette manière de recruter? Est-ce que tout à l'heure tu disais que vous avez des IA qui font matcher CV et scorecard pour faire déjà le premier screening, ou en tout cas une partie du premier screening? Est-ce que vous la déployez même à d'autres échelles pour évaluer, je sais pas, des soft skills, des attentes particulières que vous avez que l'IA?
On teste des solutions externes qui font ça. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, c'est pas du tout en œuvre.
Mais il y a des trucs prometteurs, vraiment
Oui,
prometteurs.
tout à fait. Alors la question après, c'est la question de l'expérience candidat, c'est que il y a des trucs très prometteurs. Maintenant, est-ce que je fais rentrer mon candidat dans un tunnel de test? Et s'ils sont prometteurs et solides, ils durent pas 2 minutes. Donc c'est un arbitrage à faire. Pour quel type de job je le fais? Je vais pas le faire pour tout le monde en fait. Je vais pas. Je vois mal. On parlait de la difficulté d'attraction. Si pour avoir le droit de commencer à postuler chez moi, t'as 1 heure de test online psychotechnique fabriqué par des neuroscientifiques qui te où tu vois pas forcément où en venir, où ils veulent en venir, pardon. Ça peut être aussi décourageant. Donc c'est ça qui est compliqué aussi dans cette dans l'approche dont on parlait, de devoir se remettre en cause systématiquement. Tu vas avoir des candidats qui vont te dire j'ai même pas eu de test technique, c'est pas sérieux. Puis des candidats qui vont dire wow, encore un test technique, j'en passe 40 par semaine. Donc c'est assez compliqué. Donc de ce point de vue-là, ça demande surtout à réfléchir sur l'expérience candidat. La tech va nous offrir des solutions géniales, ça c'est sûr.
Et justement, sur quel type de profil vous mettez ça en place? Tu disais, tu le mets pas sur tous les
Aujourd'hui, pas
profils.
technique. Aujourd'hui, des profils plutôt dans lesquels on estime que le soft skills est prépondérant et sur lequel on va pouvoir former nous. Aux compétences métiers dont on a besoin. Donc plutôt des profils dans le domaine du recrutement, dans le domaine commercial. C'est là-dessus que c'est testé. Ça pourrait être développé ailleurs après. C'est plus facile à tester pour nous sur ces profils-là pour l'instant.
Et justement, vous formez vos managers à devenir coach, à
Ouais.
devenir des vrais coachs de format de vie professionnelle.
On certifie à peu près 6 personnes enfin, en France, en tout cas, peut-être dans le groupe, ça fait 10 ou 12, alors du coup, tous les ans, à être eux-mêmes des formateurs en interne sur un outil qui s'appelle DISC, mais on pourrait en avoir choisi un autre. Donc oui, on a une académie interne avec la plateforme d'e-learning Rise Up dont je parlais tout à l'heure, et puis une politique de formation de formateurs qu'on fabrique, qu'on régénère, qu'on fait évoluer au fur et à mesure, et dont certains sont certifiés sur des méthodes qu'on a retenues qui sont jamais magiques, mais quand on a le même langage, elles ont souvent le mérite de nous permettre d'adopter le même langage, en fait.
Ok. Est-ce qu'il y a, parce que là on arrive sur la fin de cet épisode, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais aimé qu'on aborde? Est-ce qu'on commence à refaire une belle vue de la crise des talents et du secteur du recrutement?
Il y aurait beaucoup à en dire. Non, je pense qu'on a échangé assez largement sur le sujet. Je crois pas. Je vois pas de gros oublis. Je vois aussi une chose peut-être. Enfin, dans les choses que importantes que dans les points de repère pour moi, c'est que je pense que il y a vraiment un changement et une prise de conscience du fait que le recrutement, ça devient une fonction stratégique de l'entreprise. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement notable. Pendant longtemps, ça a été le boulot qu'on pouvait refiler à n'importe qui, en fait, parce que c'était pas très compliqué. Et en fait, c'est très compliqué, le recrutement. Il y a un vrai tour de main. C'est tout aussi compliqué que la vente, qui est tout aussi compliqué que faire des projets techniques réussis, etc. Et le job qu'on attend, nous, de tous les gens chez nous qui en font du recrutement et qui recrutent pour eux-mêmes, hein, c'est d'être capable, et c'est ce qui est le plus dur, c'est de recruter des gens qui sont meilleurs qu'eux. C'est pas facile, c'est pas naturel. Et donc, la culture du recrutement qu'on souhaite, c'est des managers impliqués dans le recrutement, des directeurs impliqués dans le recrutement pour aller convaincre des personnes qui vont être capables de les remplacer, compte tenu de la croissance là aussi qu'on a, de les rejoindre. Et beaucoup d'entreprises se contraignent par rapport à ça. Je pense que c'est une des pratiques peut-être à partager aussi avec certains qui n'auraient pas cette perspective, que de faire attention à pas avoir peur de recruter des gens très très bons, parce que en particulier dans le domaine tech. Et ça règle en partie une autre question, qui est la question du salaire. Cher, ça ne veut pas dire grand-chose. Quelqu'un qui est très très performant dans son métier, vous trouverez jamais qu'il est vraiment cher. Quelqu'un qui est, on va dire, standard dans son métier, oui, il peut être cher à un instant T. Mais je pense que ça, c'est fondamental, et c'est ce qu'on essaie de développer comme culture chez nous et de maintenir. On n'y arrive pas trop mal avec. On a 2 tiers des gens chez nous qui ont été qui occupent aujourd'hui 2 tiers, pardon, des personnes qui ont une fonction de direction chez nous aujourd'hui, qui ont démarré leur carrière avec nous. Donc on les a pas choisis que pour le premier job qu'ils ont fait. On les a choisis aussi pour les jobs d'après. Et là aussi, comme réponse à la limite que pose la question du salaire, par exemple. Réfléchir au recrutement pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça donne une perspective différente à la personne que vous recrutez.
Eh ben écoute, merci beaucoup Jean-François, je trouve que c'est un épisode très très complet.
Merci à toi, merci beaucoup.
Et très chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter que vous trouverez en description, qui vous permet de vous tenir informé de toutes les actualités tech et économiques à travers le monde, et puis à partager cet épisode autour de vous pour nous aider à avoir toujours de meilleurs invités et d'invités encore plus j'ai envie de dire difficiles à avoir, mais bon. On tatoue Jean-François, donc je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
C'est gentil, ça a été quand même.
Écoute, merci beaucoup et à très vite.
Merci à toi. Merci.
Au revoir.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.